Ça va les amis? Merci Taulette. Merci Trouscap. Go with the flow. Comment ça va les amis? Eh oui. Oh, je vois plein de petits messages sympas. Je vois des gens qui stressent parce que ça passe un petit casting, sélection de questions pour un champion de téléphone demain. Ça va bien se passer mon ami. Je vois certains qui sont sur le point d'aller au travail. Je vois qu'il y a de la migraine aussi. Hein, pour certains, force. En direct d'un trajet de bus de 12 heures. Putain, Naken, tu vas où là? C'est les holidays, quoi. Holidays, 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 oh, oh, oh. Tout le monde a reconnu. Madonna, bien sûr. Il n'y a pas une chanson de Madonna qui s'appelait Holidays. Alors, c'est Holiday, au singulier. Putain, c'est vieux, ça. De Dieu, ça. Sur booking.com, passez. C'est de la pub, vous connaissez pas les jeunes, vous ça? C'est moi qui ai fait la choré à l'époque. Le bras, c'est moi qui proposais à Madonna, le bras comme ça là. Ça aussi, ça. Je lui ai dit, tiens, après tu fais ça. Ah, par contre, ça c'est elle. Elle voulait toujours faire ça. Là. Ça c'est vraiment un move de Madonna. Ça. J'aimais bien d'ailleurs. Après le genou, c'est elle aussi là, le genou là, mais j'aimais moins moi. Ah, ça approche hein, en vrai. LMG me dit premier succès de Madonna en 84. Oh la vache. Ah ouais, j'avais 13 ans quoi. C'est sur cette musique que mes parents se rencontraient, me dit une veille. J'avais 13 ans quoi. Putain, qu'est-ce que j'étais fasciné par l'industrie musicale à l'époque pour. Je voulais mon alpha et mon oméga dans ces époques-là. Je crois que c'était peu ou prou la naissance d'une chaîne aux États-Unis qui s'appelait MTV, qui était révolutionnaire pour l'époque, qui était une chaîne de clips. Et moi, mon objectif, mon goal, mon objectif de vie à l'époque, c'était de devenir présentateur d'une émission de clips. Voilà. Et tout de suite, le dernier Madonna, Holiday, let's go les petits amis, tu vois, un truc comme ça. Ça, c'était, je voulais faire ça, puis finalement, j'ai fait d'autres choses. Merci Shinkin pour le 18e mois, merci Nata pour le 3e mois, merci Druscap, merci Taulette. Merci pour les subs de tout à l'heure. Comment ça va, vous? Ce week-end, il y avait le Sleep Fest à Nantes. Quoi? Lady Mimi, dans le chat, me dit que ce week-end, il y avait le Sleep Fest à Nantes. Je me suis dit que ça aurait été hyper fun un live de toi à cet événement. Merci pour les vues de presbytie. Le Sleep Fest. Littéralement, la fête du slip. Attends, slip, ça c'est pour moi. Ça, c'est pour Bibi, ça. À Saint-Herblain, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouest France, nos amis de Ouest France. 10 000 personnes. Pour la deuxième édition du Sleep Fest. Oh, j'adore! À Saint-Herblain ce week-end. Ce festival ode à l'absurde a trouvé son public. Merci Olistou, c'est trop gentil. Car l'avantage d'un concours de sosie raté ou de lancer de tongs, c'est qu'il peut faire rire tout le monde, enfant compris. Mais qu'est-ce que c'est que ce banger? Deux jours de coupe mulet, d'imitation, de cris de mouette, de lancer de slip. Mais deuxième édition, et pas seconde, seconde c'est quand il n'y en a plus après. J'espère qu'il y en aura d'autres. Deuxième édition, de coupe mulet, d'imitation, de cris de mouette. Festival organisé par la Guinguette Les Nantais. 5000 entrées l'an dernier, 10 000 cette année. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Voilà. Différentes compétitions de cris d'animaux. Coq. Mouette. Ah, ça, je sais pas. Là. Comment vous faites la mouette? Comment elle fait la mouette? Non. Cri de mouette. Ça fait la mouette. Ah, faut que je m'abonne à YouTube, bordel. Hein. Ah, ça c'est dur ça. Je le fais pas très bien. Ok, continuons notre notre immersion dans la fête du slip. Donc, cochon, ça je sais faire. Dindon, putain, je sais pas moi. Cri du dindon, je sais pas moi. Oui, comment ça? Ça glougloute un peu, non? Comment il fait?
Il sait faire.
C'est impossible à faire. Comment ça? Mais il s'étouffe. Mais c'est affreux. C'est impossible à faire ça. Ça ressemble plus à quelqu'un qui se noie. J'adore. Ok. Un super loto animé par Mylène Farmer. Quoi? Ah non, Émile Farmer. Waouh. La course de Tekel en slip. Tekel les chiens? Ils ont fait une course de Tekel en slip? Programmé dimanche en début d'après-midi a été annulé à la dernière minute en raison d'un coup de pression par mail d'une association de défense des animaux. Oh là là! Vas-y! Vas-y, tu mets un Tekel en slip! Les gars! Vas-y! Ça nous aurait fait une petite vidéo, ça. C'était davantage un rassemblement de chiens qu'un concours. Mais oui, ils auraient été trop contents, les Tekel, d'être en slip ensemble. C'est sûr. Lâche un membre de l'organisation, mais c'est pas l'esprit du slip fest d'être dans la confrontation, donc on a annulé. Oh là 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 là. Je suis trop innocente. J'ai cru que c'était la slip fest, S-L-E-E-P, où tout le monde vient avec son sac de couchage. Non, c'est vraiment la slip. Slip kangourou, quoi. J'adore. Mais quel bonheur. Alors là, vous m'avez régalé, quoi. Le festival de la Beaufrie. Oh, ça est tout de suite, ça n'aime pas le slip, la coupe mulet, le jugement, quoi. C'est dingue, ça. Slip Fest. Tiens, il y a un teaser, là. Bah voilà. C'est le bouseux là. C'est Romain qu'on a vu là. Mais c'est le bouseux ça. C'est mon Romain ça. Là, c'est Romain. Nana. Non, je fais une blague, oh là là. Sarkozy, non, je viens d'analyser les traits physiques tant du visage que du corps de ce personnage sur la scène donc du dit Slipfest. Et non, je tiens pour chose quasiment assurée qu'il ne s'agit pas de le bouse. Oh putain, sérieux quoi. Moi je dis meilleur festival du monde.
Allez, bravo. Oh non, pas mal, bonne journée.
Excellent. Ah, super.
Mais c'est Darmanin ça? C'est Darmanin? Lui là.
Un événement.
Avec son Bob Lidl.
Ça sent de l'ordinaire, c'est super marrant.
Tout le monde est rigolo, tout le monde sourit, ça fait du bien dans ce monde de lutte.
Ah, mais ça c'est. Comment elle s'appelle Ah, c'est pas lui? Le Biggie. Non, c'est pas Darmanin, je dis n'importe quoi. Je sais plus si vous êtes premier ou second degré là. J'arrive plus là, j'arrive plus à voir. Attends, on va voir l'historique de. C'est ça qui va me dire si c'était. Attends, qui m'a dit ça? Attends. Le Biggie, c'est second degré ou. Je pense que c'est second degré. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, si, sûr. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir mon propre jeu quoi.
Marche avant, marche arrière.
C'est cool. Ah, j'adore. Incroyable. Pas mal en vrai. Bon, merci de l'info, je savais pas que ça existait. Merci Olistou encore. 44 mois d'abonnement. Olistou, tu soutiens cette chaîne depuis 44 mois, toi, en détente. Merci mon ami. Bon, comment ça va vous? Bande de beaux gosses. Ah. Une revue de presse qui commence par sur le Slipfest, il n'y a pas de meilleure intro. Bah c'est vous ça. Entretien cet après-midi, MMG, boulot. Taf. Fait chaud à Ajaccio. Pop. Diesel, la chance. La saison est lancée. Salut Guibou. Petit café, Tom Thompson. Santé. MDR sous coca à 9h15, t'as pas le temps. J'ai pas le temps. Ah bah on est levé depuis tôt hein, ce matin. Hein. Il a fallu lire un peu les journaux. Il y a des trucs sympas ce matin. Vous avez vu que. Donc oui, à ce propos justement d'infos là. Une rumeur. Qu'est-ce que j'ai là? Oh, je me suis mis la crème, je me suis coupé là. Ça brille un peu. Ouais. Une rumeur circule sur les réseaux. J'ai entendu cette rumeur. Selon laquelle la chaîne du dit Sieur Samuel Etienne voilà, se consacrerait de plus en plus au gaming, comme disent les jeunes, aux jeux vidéo, hein. Oui, je sais cette rumeur tenace qui s'installe subrepticement sur les réseaux hein, que le dit Samuel Etienne consacrerait de plus en plus de temps éditorialement parlant sur sa chaîne, sur comment s'appelle cette chaîne, sur la Switch là, aux jeux vidéo. Que nenni, bâton en brèche, c'est Bill Vesey et ses rumeurs bien sûr, rappelons que évidemment, cette chaîne est entièrement, intégralement, 100% consacrée à l'information. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur. Voilà. Mais ici, c'est news, info, actualité et tutti quanti. Je ne sais pas d'où il sort ça. Mister Dolek, je suis comme toi. Je ne comprends pas. Ouais. Qu'est-ce que Valorant? Je ne sais pas, Yonéa. Valo, comment tu? Valo, je ne sais pas. De toute façon, ça se verrait, elle deviendrait violent. Mais oui, sous le caribou, bien sûr. Très bon argument que je mets de côté pour un éventuel procès plus tard. Trophée, blague à part, je ne fréquente presque plus la chaîne à cause du changement de programmation, mais il en faut pour tout le monde après tout. Parce que tu n'aimes pas l'information, Trophée, c'est ça? Tu trouves qu'il y a trop d'infos? Il y a trop d'infos? C'est ça? Ouais. Bon. Ah mais écoute, c'est ma passion. Moi, c'est ma passion. Annoncer des mauvaises nouvelles aux gens, moi. Moi, c'est mon kiff, c'est mon petit plaisir. C'est mon petit plaisir. Je me lève, voilà, je me dis, tiens, comment je vais bien niquer la vie des gens, là. Bien leur pourrir la journée. Tiens, je vais bien leur raconter tout ce qui va pas. Moi, c'est mon petit plaisir. Voilà. On ne juge pas, on n'est pas dans le jugement. Chacun son plaisir, chacun son centre de gravité. Moi, c'est ça. Moi, c'est niquer la journée des gens en collectant, en listant toutes les mauvaises nouvelles, en disant, voilà, tu t'es levé du bon pied, tu es plutôt content de ta vie, tu es plutôt équilibré. Ben non, pas du tout. Moi, je suis là avec mon petit baluchon là, de mauvaises nouvelles que j'ai là avec moi. Là, je dis, tiens, ah, tu es de bonne humeur, tiens, bah tiens, un peu de Proche-Orient. Ah, tu es de bonne humeur, tu reprendras bien un petit peu de chômage. Voilà. Et tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de maladies graves qu'on ne sait pas guérir. J'ai deux belles tranches. Je te mets ça, ça. Oui, un peu plus. Je vous le laisse, madame. Voilà. C'est ma mission. Moi, je suis là pour ça. 30 ans que je fais ça. 30 ans que je fais ça. C'est mon petit bonheur à moi. Moi, mon bonheur, c'est de vous rendre malheureux. C'est ça, moi. C'est ça, mon secret. Souvent, on me demande, mais Samuel, quel est le secret de ton glow, hein, parce que bon. J'irradie naturellement. C'est pas tellement mon capital ADN, c'est pas tellement les crèmes microbiotiques aux acides aminés dorés aux UV que je me mets le soir et le matin sur ce doux visage. Non, c'est essentiellement parce qu'en fait, parce que je voilà, j'irradie finalement de joie intérieure de distiller ces mauvaises nouvelles. Voilà, 30 ans que je fais ça. Et attendez, le pire, j'en vis. On me paye pour ça. Hein. Ouais. Oui, la crème quantique, oui, c'est ça que je mets. Voilà. Et vous regardez. Eh oui, Neva, c'est ça qui est incroyable. Hey. Merci, El Mafio, pour ton gentil message. Merci à Axou. Oh, tu te lèves et tu nous bouscules. Ah là là, la ref. Comme d'habitude. Donc il y a la chanson de Claude François. Attendez. Tu te lèves. Comment ça s'appelait? Tu te lèves. Bravo la ref. Il y avait une parodie après. Attends, j'ai plus. Tu te lèves. Claude François. C'est quoi cette chanson déjà? Comme d'habitude. Et comme d'habitude, je crois. J'ai une anecdote là-dessus. Alors,
avec une simple recherche.
Ta gueule la pub. J'ai une anecdote là-dessus qui est une anecdote sérieuse. Ouais. Alors, ça, c'est Claude François, ça. Ah, putain, le logo, ça, c'était le logo de sa maison de disque. Je crois qu'il avait eu sa propre maison de disque. Je sais plus s'appeler Éclair ou je sais pas quoi, là. Sur les 45 tours, j'avais ça à la maison.
Alors, Claude, puisque la seule solution...
Qu'est-ce que c'est que ça, là? Je joue la chanson, moi. Ah, c'est Georges de Cône. Incroyable.
Et je te bouscule, je me lève. Voilà. C'est une chanson que je vous demande maintenant. Je me lève et je te bouscule.
Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Très étrange ce début de chanson. Moi, j'écoutais ça enfant, donc. Et encore aujourd'hui, je m'interroge encore sur la signification de ces paroles. Je me lève. Attends, je me lève et je te bouscule, c'est ça?
Une chanson que je vous demande maintenant.
Je me lève. Ouais, ça je sais, ça je connais, le mec se lève.
Et je te bouscule.
Mais enfant, et aujourd'hui encore, comment, pourquoi? À quel moment tu te lèves et tu bouscules la personne qui dort à côté de toi? Non mais, explication de ces paroles. Elle fait semblant de dormir pour l'éviter, leur couple n'allait pas si bien. Mais pourquoi il la bouscule? Ça n'arrange rien. Vous me dites que c'était qu'il ne s'entendait pas avec sa compagne de l'époque, il y a un truc comme ça et tout. Mais à quel moment tu bouscules ? Ça n'arrange rien. Réécoutons ces paroles.
Je vous demande maintenant. Je me
lève. Ok, ça, moi je fais ça le matin. Moi je me lève le matin et bon, je fais le moins de bruit possible, tu vois. Je bascule en sortant du lit, la fameuse bascule pour pas faire mal au dos, vous voyez, là, pour les vieux là. Tu te roules sur le côté, là, tu te mets un petit peu en boule, enfin je roule sur 10-20 mètres, bref. Donc j'ai ma petite méthode et j'essaie de ne pas faire de bruit, quoi. Donc et lui il bouscule. Et je te bouscule.
Tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude.
Et c'est tous les matins. Tous les matins, il fait ça.
Sur toi,
ok, après quoi ?
Je remonte le drap.
Ah, ça par contre, c'est gentil, ça.
J'ai peur que tu aies froid.
Ça, c'est mignon, ça.
Comme d'habitude.
Oui. Alors, j'espère qu'il va pas encore la bousculer. Ça commence très mal. Ma main, qu'est-ce qu'il va faire avec sa main ? Si jamais il la rebouscule, ça va être très problématique. Oui.
Comme d'habitude.
Après, c'est fascinant cette chanson, je l'ai pas écoutée depuis des années. Oui, dans la salle de bain pour pas faire de bruit. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Et la douche ? Et l'hygiène ? Les cheveux, tout ça. Il s'habille. Hein ? Et la douche ? Et la douche ? J'aimerais pas être son patron, hein. Il est en retard tous les matins, il vient de le dire. Attends, le mec ne se douche pas, et il est en retard tous les matins. C'est-à-dire qu'il arrive au taf, le mec, il pue, et il est en retard. Eh ben, 2 mois, merci. Merci Urchien pour le 23e mois. La suite ? Alors attends, il se lève, il fait mine de dormir, il rentre, elle est pas là.
Pas encore rentré.
Continue à chercher la polémique, hein. On est vraiment sur Twitter. Arrête, je vais commencer à croire que tu aimais l'homme qu'il était. Va le poster sur Twitter, fais un clip de tout ça, vas-y, va chercher la polémique, va chercher bonheur, va chercher polémique, va chercher les likes, va chercher Twitter, vas-y mon ami. Au début, la douceur, là, on sent qu'il y a la vraie tristesse, et après, là, quand il bug comme d'habitude, c'est épuisant, hein, c'est épuisant. C'est vrai, comme certains l'ont remarqué, pour gâcher ce moment de troll ultime, Claude François s'est avéré, on l'a découvert sur la fin de sa vie et encore plus après quand les langues se sont déliées et n'était pas une belle personne par ailleurs, voilà. Mais bon, c'est tout. À un moment, de temps en temps, il faut s'amuser, il faut troller. Qui, à cause de qui il est c'est parti, ça, quelqu'un m'a parlé de... Alors justement, l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est que quelqu'un m'a dit la version Sinatra a plus de classe peut-être. Alors là, et je vois bonjour certes mais reprise par Sinatra. Ah voilà, Oscar Tillage, je crois qu'Oscar Tillage a raison, c'est ça que je voulais vous raconter en fait depuis le début. Regardez. De Frank Sinatra, c'est la reprise de Comme d'habitude de Claude François. Ouais. C'est d'abord Claude François. Voilà. Bon, le mec qui, au niveau personnel, n'était pas un mec terrible. Hein. Je sais pas si vous étiez au courant. Voilà. Et en fait, c'est Frank Sinatra qui a... Et je me rappelle de l'annonce aux informations de la mort d'Elvis, quoi. Puis à l'époque, la télé française passait très régulièrement les films d'Elvis, parce que Elvis avait été acteur dans toute une série de nanars, hein, qui était pas, les films n'étaient pas très intéressants. Mais en fait, il avait comme une présence de fou, quoi. Et il avait un charisme... Certaines parties du chat vont aller me chercher des doses sur Elvis en me disant « Comment ça ? Tu écoutes Elvis ?» Ça y est, c'est parti. Alors que vraiment, hein, je veux son pantalon. Moi j'aimerais ce petit pantalon à paillettes là. Voilà. Là je pense franchement que voilà. Moi on m'offre ce costume, je me retire de toute vie professionnelle et sociale et je passe ma vie dans ce costume. Oh, Elvis le King en début de carrière, Burger King à la fin, Matt Delour, j'aurais pas osé la faire mais j'avoue. Oui, bah, il n'avait pas une hygiène de vie de folie, quoi.
Bonhomme, quand même.
C'était un bonhomme. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu, rappelons-nous que Elvis Presley, qui jusqu'au bout a eu cette voix de fou, quand même. Ses derniers concerts, là, je crois qu'il y a des concerts dans les casinos à Las Vegas, je crois, où il, oh, il a du mal. Tiens, essayons de trouver dernier concert. On passe à l'actualité, hein, mais comme je sais que ce matin, c'est encore des nouvelles déprimantes, je fais un petit détour pour... ce concert, Elvis Presley. Et je crois que c'est un peu touchant à la fin, parce que bon, physiquement, il est, ouais, il est bourré de médoc, quoi, à la fin, Presley. Ah si, il est mort jeune. Enfin, jeune. Alors, j'ai un concert de 77, là. Toute dernière fois. Dernière tournée, 77. Et là, je sais pas, je vois quelques années, il y a un concert inédit. Ouais. Ok. Pour éviter de déprimer, on va écouter le dernier concert d'un homme bourré de médoc. Exactement. Exactement. Oui, c'est ça qu'on fait. Merci, Lord of Cactus. Merci, Céleste. Attends, Céleste, ton message est trop gentil. Merci. J'espère que ça va mieux aujourd'hui. Merci beaucoup. Ton message me touche beaucoup. Merci, Céleste. J'espère que ça va mieux aujourd'hui, surtout. Merci, Sim4. Merci, Zals. Merci, Crotte de Nez. Crotte, K-R-O-H-T, plus loin, de Nez. D-E-N-Y, Crotte de Nez. Je valide. J'adore. Lady and Bird, merci. Incroyable. C'est incroyable. Bon, on va désimpacter ce message. Il y a eu trop de fame déjà. By the mid-south island. Ouais. Non, celle-là, ouais, celle-là n'est pas jolie. Attends. Non, c'est pas ça que je voulais, moi. Hop, hop. Last concert, Elvis Presley. Putain, je suis encore le slip fest dans ma barre de recherche. Alors. Love me. Ta-da. Love me. Moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir Elvis Presley. Après, on le verra jeune. On va arriver à la rue de presse. Hein. 56, waouh. C'est quoi ça? Live 75? Ouais, il est encore bien, 73, là. C'est marrant, j'ai souvenir de vraiment d'images un peu dures à la fin, mais là, il est 73, il est encore bien. Hein. Là, j'ai un live à Las Vegas qui est En vrai, il est encore bien, là. Hein. Il est bien encore, là. Merci, Jiraya Sensei. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Classe quand même. Why can't you see, oh, what you're doing to me? Oh. Cette gueule d'ange qu'il avait. Hein? Quelle gueule d'ange, vous rendez. Il est pas très loin de la fin de sa vie encore. Et regarde le charisme encore, quoi. Suspicious mind, and we can't build our dreams on suspicious mind. So if an old friend I know, elle est magnifique, incroyable. C'est mon petit plaisir nostalgique ce matin. Je suis désolé, hein, de vous imposer ça, mais c'était toute ma jeunesse en fait. 70. Ah! Là, j'ai un Jailhouse Rock. 77. Là, on est vraiment sur les derniers. Et là, la transformation physique, elle est là. Non mais attends, Sam, il est mort, Elvis Presley, mais qui nous a mariés à Las Vegas alors? Nicolas Julio. Ça, moi je t'épingle. Et vraiment, pour les bonnes raisons. Parce que ce message, il est juste parfait. Voilà. Ça c'est beau. Putain les gars, la vanne est parfaite. Moi j'adore. Le Rotel, merci. Non mais bravo quoi. Hein? Regardez le changement physique. Tu sens qu'il a fallu un petit peu élargir le pantalon, tout ça. T'as la voix est là quand même. 77, là, on est sur la fin de sa vie. Je suis con, je vous ai pas mis l'image, je suis débile. Il a changé, mais il est toujours incroyable. Ouais, bah oui, il a changé. Ouais. Ouais. Et là, vous savez ce qu'on va faire? On va avoir le Jailhouse Rock. Mais jeune, vous allez voir. La même chanson. Le rock du bagne en français. Il y a eu un film d'ailleurs. T'es pas si mal en vrai. C'est pas le pire truc. Oh, et d'ailleurs, c'est le clip issu du film pour moi. Oh là 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 là, dingue que c'était ça. On est en 57. C'est 18 ans avant l'image que vous venez de voir. C'était le surnom des gens qui l'aimaient pas. Non, c'est Forrest Gump. Non, c'est moi. les gens qui l'aimaient pas l'appelaient Elvis, le pelvis. Pelvis, c'est bassin, non? C'est ça? C'est faux, c'est Forrest Gump qui l'a inspiré. Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi qui ai appris à Forrest Gump. Et ça nous donne envie quand même de nous pencher l'espace d'un instant sur la vie d'Elvis Presley pour voir un petit peu comment ça s'est terminé. Je crois que c'était un peu les médicaments, non? Il est mort à quel âge? Le pelvis, c'est un os du bassin, c'est ça. Voilà. Il est mort à 42 ans. Il est mort à 42 ans. Bah 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 bah. Incroyable. Mort. Crise cardiaque. Ah ben. Voilà. Bon, crise cardiaque parce que son corps était épuisé, quoi. Ben. Trois anciens gardes du corps de Presley révèlent les addictions dont il souffrait, voilà, et tous ses problèmes de santé. Hein. À la fin de sa vie, il souffrait de glaucome, d'hypertension artérielle, de problèmes de foie, de cholectasie, autant de troubles aggravés par l'abus conjoint d'amphétamines et de médicaments. Les amphétamines légales à cette époque compensaient la surcharge de son agenda. C'était pas son entourage pro, notamment son agent qui l'obligeait sans arrêt à faire des tournées, des nouveaux disques. Il n'était pas un peu pressé comme une orange, il n'y avait pas une histoire comme ça. Les amphétamines légales à cette époque compensaient la surcharge de son agenda alors que les surdoses de médicaments cassaient les effets des amphétamines et lui procuraient le sommeil. Waouh. Durant les derniers mois de sa vie, Elvis a également dû affronter différents problèmes judiciaires suite à l'agressivité de ses gardes du corps à l'écart des fans. Hein, le colonel, c'est ça, ouais. J'ai pas vu le biopic, ouais, qui devait être formidable. Waouh. Et donc quand il meurt en... Le biopic est excellent. Il n'était pas pressé, mais il était Presley. Pff, joli. Donc il est mort en 77. Et moi, je me rappelle, donc j'avais 6 ans à l'époque, 6 ans. Et je me rappelle de l'annonce de sa mort dans les médias à l'époque. Voilà. Et ça m'avait attristé parce que du haut de mes 6 ans, je crois que j'avais déjà vu à la télé, puisqu'à l'époque, il passait très souvent ses films, notamment le Jailhouse Rock qu'on a vu là, le rock du bagne. Et en fait, et du coup, je trouvais assez fascinant la personnalité. Et donc, c'est un de mes premiers souvenirs assez nets d'actu, ça. Ouais. Assez nets d'actu, c'est la mort de Presley. Bon, voilà, introduction inattendue à cette revue de presse ce matin. Mais c'était sympa de se souvenir de ça. Arrête de nous mentir, tu n'avais pas 6 ans, mais 60 ans. Ouais. J'hésite. J'imagine le petit Samuel Etienne s'entraîner à faire le déhanché du King dans sa chambre. Ah non. Non, ça me semble être déjà trop casse-gueule, quoi, pour mon... Non. Et si on parlait de Nestlé et de l'État qui a étouffé l'affaire ? Quoi ? Nestlé est à l'origine de la mort d'Elvis Presley ? Quoi ? Attends, la mort du King que j'aimais tant, c'est Nestlé ? Oh putain, sérieux ? Quoi ? Putain, ça va bon. C'est fou. Alors là, c'est fou. C'est incroyable. Mais d'où est-ce que vous savez ça, vous ? Ouais, moi aussi, je suis choqué. Incroyable. Bon, je vais vous faire un petit sommaire dans un instant. En ce moment, c'est... Hein, comme je le disais, certaines rumeurs disent que cette chaîne est très axée gaming. Moi, je... Constatons les faits. Hier, il y a eu du gaming. Il y a eu de l'info. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ce matin ? Il y a eu de l'info. Et demain matin ? Alors que demain, pourtant, il y a MVP à 18h. Qu'est-ce qu'il y aura demain matin ? Il y aura de l'info. Voilà. C'est une chaîne d'info ici. C'est une chaîne d'info en continu. Hein ? Voilà ce que c'est. Hein ? C'est la quatrième chaîne d'info en continu de France. Voilà ce que c'est. Si Moule Beach fait un peu de gaming de temps en temps. Mais vite fait. Ouais. Ce soir, il y a quoi ? Ce soir, qu'est-ce qu'il y aura sur ma chaîne ? Peut-être. Samuel Etienne, priorité au direct. On va faire des jingles comme ça. Samuel Etienne, priorité au direct. Samuel Etienne, la chaîne d'info où toutes les minutes il se passe un truc. Des petits slogans un petit peu anxiogènes comme ça. Voilà. On va tous mourir. Je vous le raconte tous les jours. À 8h. C'est un truc comme ça. Il faut trouver des petits slogans, des petites punchlines comme ça. On va tous crever. Rendez-vous dans mes JT. C'est pas mal ça. Ça, c'est bien ça. On va tous crever. Rendez-vous dans mes JT. Tiens. Ouais. C'est bien ça. C'est pas mal ça. Un truc comme ça. Ah oui, l'info qui tue pas mal. Ouais. Samuel Etienne, l'info qui tue. Avec une musique un peu anxiogène, ouais. On en a parlé hier, Troïka. C'est hier, tu l'as en replay, mon ami. La petite gifle, la petite baffette. Ouais, Tom Thompson me propose « Vous pouvez mourir, mais soyez au courant. » Comme Claude François. J'aime bien ça. Ça, c'est pas mal, ça. Tiens, je vais acheter des pleines pages dans les journaux, tu sais, pour faire la pub de la chaîne, et il y aura ma photo, en gros, tu vois, avec les yeux un peu plissés, comme ça, un peu concernés, un petit peu « moi je sais, vous savez pas », ou « nous savons, je sachons », et dessous, en gros, il y aura « vous pouvez mourir, mais soyez au courant ». Ouais, c'est pas mal ça. L'info à demain, peut-être. Pas mal ça. C'est pas mal ça.
J'adore.
Non, Tom Sad, c'est très pertinent, très pertinent. Alors, le Romain Éthique demande, ça coûte cher une pub dans un journal ? Alors moi, c'est un truc, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, je trouverais vraiment très drôle qu'on se paye une page de pub, nous là, la chaîne, dans un grand journal. Mais tu vois, un truc, alors... totalement en mode troll, hein. totalement second degré. C'est-à-dire qu'on partirait de nouvelles plateformes, quoi, et on irait donc vers sur tous les anciens médias, et on ferait une page de pub, quoi. Voilà. Voilà. Attends, on va chercher on va essayer de trouver le prix.
Prix.
Pleine page de pub. Et on mettrait un slogan comme ça. Non, pas j'ai zizi qui colle. Non, c'est nul, Slay, comme slogan. Non. Non, plutôt quelqu'un. C'était bien tout à l'heure. Sur Mouru, là. Tu vois, attends. Vous pouvez Mouru, mais soyez au courant. Tu vois, un truc comme ça. Dans quel journal? J'ai une petite idée de journal, facto. Prix, pleine page de pub, journal. Comment ça coûte, à votre avis? Presse locale. Attends. Non, je veux une page, moi. Presse nationale. Tarif Le Monde. Eh, j'ai PDF. Il y a les tarifs, les gars. Ok, catégorie premium. Moi, je veux une page. Hein. Moi, je veux pas. Ah ouais, si. Ah ouais, c'est cher. Premium. Attends, je vois page 3, 180 000 euros la page. Ah, puis c'est 2020 en plus. Ah ouais. Oh là là là. Ah putain, c'est compliqué là. Ouais. Un pavé, signature, quart de page, premier cahier. Attends, c'est premier. Comment il dit cool ça? Alors, premium, page. Ah ouais, page. Ah, pourquoi c'est moins cher après les pages là? Pourquoi certaines pages sont... Pourquoi il y a 183 et pourquoi il y a 86 quand c'est page 3? Ah, news, je sais pas. C'est cher. On avorte le projet, je répète, Aubin, on avorte le projet. Non, double page, 263 000 balles. Ouais. Ah, mais je sais pas, il y a des pages qui sont à 26 000 balles. Ah non, un huitième de page. Ah oui, un huitième de page. Ouais, c'est un quart de page, un tiers de page. Une demi-page, c'est une demi-page, 100 000 balles. Ah, et la page, c'est ça. Ah ouais, tu te payes la page 3, 180 000 balles. Tu te payes la page... C'est moins cher la page 7, 9 ou 11. Et encore, c'est les tarifs de 2020, quoi. Ah, putain, je pensais pas que c'était si cher, quoi. Ouais. Dernière page, 184 000 balles. Pour un jour, bien sûr. Bah, il faut payer la rédaction, hein. Non, mais c'est, je suis pas surpris, hein, c'est cher. C'est du brut, c'est du hors-taxe. Ouais, mais après, je suis une société, moi. Ouais. Bah, en fait, moi, j'aurais bien mis une pleine... Vous savez quoi? J'aurais bien mis une pleine page de pub un peu troll comme ça dans Le Monde. Dans Le Monde. Attends, l'IBS, c'est presque... Non, c'est pas indécent. C'est les gars, c'est super cher de fabriquer un journal. Vous savez, les journaux, ils sont pas super payés, hein. C'est super chat, on regarde. Non, pour le coup, pleine page. Prix, page de pub, Libération. On fait Libé? Peut-être moins cher, Libé. Ah, ça peut être un vrai donation goal pour The Event, ça. Si. Tiens, Libération 2024, tarif presse. C'est incroyable, il y a tout sur Internet. Hein. C'est magique, Internet. Au début, j'y croyais pas, Internet. Hein. Quand Internet est né, j'ai dit, ça marchera jamais, ce truc-là. Hein. Et puis, c'est pas mal, ouais. Alors. On s'en fout les généralités, nous on veut les prix, nous. Print. Ok. Ok, c'est un peu moins cher. Une page, c'est 80, 90, 85. Un peu moins cher. Pavé, bandeau, demi-page, non, on veut une page. Eh, hey, les gars, on va prendre une demi-page. On va prendre une page. Ah, il faut compter 95, ouais, 100 000 balles, quoi. Ah ouais, le slogan, ce serait on fait la pub ici, parce que dans Le Monde, c'est trop cher. Oh non, mais ouais. Ah, Le Monde, ça m'aurait plu. Hein. Mais 180 000 balles, quoi. Ouais. Quart de page, tiers de page, demi-page, page. Ah ouais, c'est ça. Faut compter 100 000 balles, quoi. Je savais pas que c'était disponible sur internet, c'est la première fois que je fais cette recherche. Mais en fait, c'est un de mes petits fantasmes de troller, ça. C'est de me payer une pleine page dans le journal. Enfin, attends, c'est cher quand même par rapport. Les gars, là, attendez. Quoi. Ça fait... Attends, fais voir les subs là, en ce moment là. Attendez. Combien là? Ok. Bon bah on va peut-être acheter plutôt un petit un peut-être un peu plus petit. Je vais peut-être prendre un petit peu plus petit, je sais pas. Merci Golden Ananas pour le Prime. Je le prends pour un encouragement. Merci Gironte, merci le jeu de la vie, merci Mirette, merci Calvas, merci Kigon, merci Bobo Dev. En fait, on va la faire la page, hein. Merci Rouet, merci beaucoup. Le mieux dans cette histoire, c'est que tu le fais passer en frais de société. Ah bah oui, pour le coup, c'est du taf. Non, mais c'est tout. Bah, je trouvais ça drôle en fait. Je pensais pas que c'était si cher, quoi. Un peu paradoxal comme Donation Goal, mettre des thunes dans la pub troll plutôt qu'une ONG. C'est pas faux ce que tu dis, la mascarade. C'est pas faux ce que tu dis. Non, il fait pas chaud à Paris, Clément, en ce moment. Ça caille. C'est peut-être cher, ouais. C'est peut-être cher, ouais. Ah, c'est ouais. Ouais. Peut-être un peu cher. Bon, allez les amis, on s'est fait une petite intro assez courte, ma foi. 57 minutes, on n'est pas très en forme, hein. C'est une toute petite intro, hein. Voilà. Sachant que je vous abandonne à midi, mais j'ai commencé tôt ce matin, puisque j'ai rendez-vous avec l'ami Paul, qui est le rédacteur en chef de mon émission que j'aime, MVP, deux fois par mois, le mercredi à 18h, MVP, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun puisse trouver la sienne et regarder eh bien, le beau menu de MVP. C'est mes activités nocturnes. Ça, c'était parce que j'ai une vie aussi. J'ai aussi une vie perso. Et la nuit, je fais des. Bon, je vais pas embrasser. Des combats clandestins de MMA. Voilà. Ça, c'était hier soir. Et. Voilà, donc ça, c'est autre chose. Hop. C'est ça que je voulais vous montrer. Ouais, spécial petit boulot. J'ai gagné. 1v12. Super émission, mercredi, 18h, voilà, on retrouvera l'ami Sunday, on trouvera l'ami Ludovic B, on trouvera l'ami Julien Méniel, notamment pour parler des petits boulots, notamment des jobs d'été. Voilà, ils sont nombreux, ces jeunes, étudiants notamment, à avoir besoin de petits jobs, et notamment l'été. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est le titre de l'émission, Repos au boulot, le choix de l'été, j'avais pas vu. Ouais, c'est ça. C'est qui le beau gosse, là? Ah oui, ça c'est moi quand je... Ah oui, ça c'est moi le lendemain du combat. Ouais, j'ai meilleure mine quand même. Et donc voilà, on va parler un petit peu de ces jobs d'été. Qu'est-ce qu'il y a de sympa à faire, combien c'est payé, quelles conditions de travail, attention à ne pas se faire arnaquer, tout ça. Pas mal en vrai, hein. Petite émission un peu sympa. Mercredi à 18h, on est très très fiers de cette émission qui est en train d'aller doucement vers la fin de la première saison. À quand le retour de Simon Puech? Ben, Simon, c'est vraiment un habitué de l'émission en vrai. Je crois qu'il est venu au moins déjà 3 fois, mais il reviendra, je l'adore Simon. Et vraiment, je suis très fier de cette émission MVP là qui vient sûrement revenir en deuxième saison pour le coup. Et c'est une émission, je suis fier, voilà. Hein. Parce que je rappelle, contrairement aux idées reçues, ça n'est pas une chaîne de gaming ici. Hein. Mais pas là pour sur les manettes tout ça. Non. Alors c'est Demon Walker, j'ai pas ça encore, cet aspect-là de l'émission. T'as les replays pour l'instant, mais ce que tu dis est très pertinent. Ça pourrait être un développement futur de l'émission de proposer ce genre de service. Ouais, tout à fait. Non, mais Clément, blague à part, je suis très fier de cette émission. Ouais. Je dis rarement ça, cette phrase-là. Je suis très fier d'eux. Je suis rarement fier de moi. Mais surtout pour mon humour qui est quand même claqué au sol. Je ne sais pas comment vous faites pour me supporter, quoi. Franchement, vous méritez chacun individuellement des prix Nobel. Quoi. Merci Skibidi Prout.
J'aime bien ça.
Merci Modest Thomas. Merci Golden Anas. Merci Gironte. Mais là, je suis fier de cette émission. Ouais. C'est une belle émission. Quoi. Mm. Merci les amis. Perso, je coupe le son, c'est bien mieux, dit Usul. Je t'aime, Usul. Troïka me dit, le jour où mon père m'a dit qu'il était fier de moi, j'ai pleuré. C'est beau, ça. Moi, je le dis à mes enfants tout le temps, ça. D'abord, parce que c'est vrai, parce qu'ils sont, assez étonnants, les petits, deux petits garçons. Là. Mais oui, c'est bien, c'est bien d'avoir entendu ça, je trouve. Merci Camito Dono. Bon, assez discuté, assez bavardé. Je vous montre ce que je vous ai mis de côté dans la presse ce matin. On va reparler de Gaza, bien sûr, ça me semble important. Je vous en parle presque tous les jours, mais ça me semble important. Ouais. Petite pocket, t'as raison. Ouais. Let's go, on y va. C'est notamment la une de Libération ce matin. Regardez ça. Je vous montre. Sommaire. Donc je ne vous dis pas tout pour l'instant. Je vous montre ce dont on va parler. C'est pour ceux qui ne peuvent pas rester avec nous. Gaza, injustifiable. On a lu hier, dans la revue de presse d'hier, un dossier dans Le Monde sur la situation actuellement à Gaza qui était très bien fait. Et on continue ce matin. Refusant toujours de laisser entrer l'aide humanitaire, l'armée israélienne poursuit ses bombardements aveugles. La plupart de ses alliés, ne vous inquiétez pas, ça va revenir, ne l'acceptent plus. Les bombardements de Tsahal, c'est l'armée israélienne, ont fait des dizaines de morts ces derniers jours, dont de nombreux enfants. Je crois qu'il y a une famille, notamment de deux médecins palestiniens, qui a été décimée. Les négociations pour un cessez-le-feu restent possibles alors que les ultranationalistes israéliens paradent à Jérusalem. Donc un dossier ce matin assez complet dans Libération. Il y a notamment un appel signé par des écrivains francophones. Attends, peut-être un petit faux contact. Leïla Slimani, Le Clésio, Despentes, voilà. Intitulé, donc signé dans Libé, intitulé « Nous ne pouvons plus nous contenter du mot horreur, il faut nommer le génocide à Gaza ». Donc, je vous lirai ça. Le Figaro aussi, il y a un édito dans Le Figaro, qui est page 17, qui est signé Renaud Girard, je crois. Voilà. À propos de cette double tragédie qui se joue en Palestine. Alors, quelle double tragédie? Parce que Renaud Girard trouve que c'est également une tragédie pour Israël, qui est en train de se... je crois qu'il utilise les mots de se saborder, de se suicider en tant que pays. Et ce qui est intéressant, c'est que Renaud Girard revient un peu sur l'histoire contemporaine et rappelle un petit peu comment, finalement, les deux parties, israéliens et palestiniens, et surtout les extrémistes des deux camps, ont volontairement raté les chances ces dernières années, décennies, de faire la paix. Donc un petit retour en arrière de Renaud Girard que je trouve assez intéressant. Pourquoi la presse et surtout les États semblent se réveiller que maintenant? Alors les États, je ne sais pas. La presse, le compte de Monte Colsto, si tu étais un habitué de cette revue de presse, tu verrais que la presse ne se réveille pas maintenant. La presse que moi je lis parle du Proche-Orient depuis des dizaines d'années. Après, pour les responsables politiques, il y a d'autres explications qu'on a déjà abordées ici et on en parlera tout à l'heure. Donc, Gaza ce matin, grosse page. On lira aussi ce matin en actu un semblant de début de, soyons prudents, de revirement de Trump sur l'Ukraine, dans le Parisien en parle notamment, mais il n'est pas le seul, à propos de Poutine. Regardez, Trump perd patience dans le dossier ukrainien. Alors ça, c'est assez nouveau. Mais bon, attention avec Trump, hein, parce que ça peut changer très vite aussi. Le locataire de la Maison Blanche a semblé contrarié par les dernières frappes meurtrières de Moscou en Ukraine, laissant paraître une lassitude qu'il n'avait pas exprimée jusqu'à présent. L'info, c'est que Trump vient de se rendre compte que Poutine est un jusque-boutiste, voilà, et qu'en en fait, il ne lâchera pas l'Ukraine, et qu'il ne se contentera pas de pas grand-chose. Et il veut aller au bout de son truc, quoi. Donc, en fait, Trump vient de se rendre compte que Poutine voulait envahir l'Ukraine. Eh oui, incroyable. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait deviné? Et donc il est un peu en colère. Il dit, mais bah, quand même, vous auriez pu me le dire, comment ça, Poutine est un méchant. Bon, voilà. Donc il est très très dépité et très très en colère. Voilà. Donc on lira ça, on verra ce qui pourra se passer derrière. Bon, en tout cas, bon, il a même déclaré, quoi. Il a dit sur son réseau social, il a dit des trucs à ce propos, il a dit que Poutine était devenu complètement fou. Incroyable. Et qu'il tue inutilement beaucoup de personnes. Alors là, alors vraiment, comme le dit Diesel, on est tous passés à côté, c'est chaud. Il est si clairvoyant, Trump, Tim Jeep dit visionnaire. Voilà, donc, je ne sais pas si ça va changer, mais en tout cas, le ton change. On parlera de ça ce matin. On parlera un petit peu de la France. Alors, hier, j'en parlais avec des amis autour de l'Incus. J'ai fait un JDR hier, puis on parlait un petit peu d'actualité. C'était assez intéressant. Et puis certains me disaient ah c'est je suis pas beaucoup l'actualité mais c'est quand même bien quand parfois je tombe sur des streamers qui parlent de politique et je trouve ça passionnant parce que ça a coûté un peu feuilletonnant, c'est vraiment passionnant. Et en fait moi je suis assez d'accord avec eux, c'est-à-dire que des confrères comme Jean Massier, comme Clément Viktorovitch vraiment ont un talent incroyable pour raconter la politique aujourd'hui. Ouais, c'est un travail de fou. Et parce que, tout simplement parce que ces deux personnes sont extrêmement brillantes. Et ça, je le comprends. Je mets un mais. Ce spectacle de la politique, moi, je n'en peux plus. Pourquoi ? Parce que ça fait 30 ans, en fait, que j'en parle sur les différents médias où j'ai travaillé. Et en fait, ça me fatigue. Voilà. Franchement, je trouve que la vie est ailleurs. Alors oui, évidemment, il faut s'intéresser à la politique, il faut s'intéresser à la chose publique, au débat de société et aux lois qui peuvent changer nos vies au quotidien. Donc cette politique-là, oui. Donc par exemple, on a longuement parlé hier de la loi sur la fin de vie qui arrive à l'Assemblée. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc parler de la politique, cette politique qui change la vie, qui peut nous impacter, parce qu'à un moment, bah, y a des élections, il faut choisir nos gouvernants. Ou parler de réforme, ça oui, voilà. Mais en revanche, parler de ceux qui font de la politique, et notamment parler des querelles d'appareil, des compétitions des écuries présidentielles, des ambitions des uns et des autres, de machin, fait alliance avec bidule, et ça, j'ai du mal. Voilà. Mais je fais une petite exception ce matin hein, parce que je trouve que bah, c'est mine de rien des échéances électorales vont arriver dans les prochaines années, il faudra bien se poser la question de pour qui on va voter, donc un peu une exception ce matin parce que, d'un journal que j'aime beaucoup et parce que je sais que le dossier sera bien fait, c'est La Croix qui pose cette question ce matin. Voilà. La gauche cherche son souffle. Le Parti Socialiste, qui s'apprête à désigner son premier secrétaire, espère se relancer avant l'échéance présidentielle. Là, La Croix prend un peu de hauteur. On n'est pas sur la dernière petite phrase de machin, bidule, chouette, de truc, mais une espèce de... Voilà, on essaie de voir où en est la gauche aujourd'hui. Hein quant à les alliances, les ententes, est-ce qu'ils arrivent à se parler ou pas, qui veut participer ou pas à une primaire, j'espère que La Croix va en parler. Donc, une double page, toute simple. Voilà. Sur le sujet, bon, ça fait longtemps que je ne m'étais pas penché sur l'état de la gauche, l'état de forme finalement de la gauche, hein, puisque bon, là, actuellement vous avez un président Emmanuel Macron au pouvoir, une assemblée divisée, une extrême droite qui pousse à chaque scrutin qui espère bien prendre le pouvoir à la prochaine présidentielle. Où en est la gauche aujourd'hui? Je ne trouve pas ça inintéressant pour le coup, même si je serais bien incapable de vous en parler tous les jours. Voilà. Maintenant ça me saoule un peu. Alors ça, je pensais que c'était un peu enterré. J'avais cru comprendre que cet immense chantier en Arabie Saoudite était enterré, quasi abandonné, pour des raisons budgétaires, parce que il s'était rendu compte que le truc était fou, et j'avais du mal comprendre. En fait, le chantier s'apprête à être lancé. J'ai Les Échos ici. C'est où Les Échos? C'est là, page 10. Ouais, The Line, exactement. Je vois, vous suivez l'actualité, c'est super agréable. Merci, Capito Denon, encore. Tiens, Trump de moins en moins complaisant vis-à-vis de Poutine, vous avez vu? Ouais, la mégalopole, là, ouais. Regardez. Alors, qu'apprends-je, quiz? Donc, c'est effectivement The Line. dans le désert saoudien, le plus ambitieux projet urbain jamais imaginé donne vie au pire cliché des romans d'anticipation. Le chantier a démarré. Alors, comme Fafnir, moi je pensais que c'était enterré, que c'était terminé. Et en fait, non, je pense qu'ils ont un peu réduit le budget, mais ils veulent le faire. Le chantier a démarré. Survivra-t-il à sa démesure ? Voilà. Et on a un joli papier dans Les Échos qui nous détaille le projet. Voilà. Peut-être le budget aussi. Et essaye de nous expliquer en fait quelle est l'intention. Pourquoi ils font ce truc, tu vois ? Par exemple, il y a Archange qui dit c'est clownesque, The Line. C'est vrai qu'on a envie de se moquer, hein, de, franchement, hein, de ce truc-là. Rappelons un petit peu. Une ville linéaire de 170 km de long, voilà, avec deux murs d'enceinte de 500 mètres de haut. Je crois qu'il y aura notamment un immeuble de 2 km de hauteur. Voilà. Et a priori, le chantier a démarré. Donc un petit point dans Les Échos, signé Paul Molga. Ça, c'est intéressant. C'est déjà une catastrophe environnementale et humaine, me dit Quentin, mais les Saoudiens, ils sont spécialistes dans ce genre d'absurdité. Tu as déjà réservé ton appartement là-bas, me demande de Côte-Fayon. Non, non. Alors pour le coup, ça me fait pas trop rêver, moi. Pas trop, pas trop, pas trop, quoi. Ouais. C'est fou, hein. C'est surtout la forme, tellement pas optimale, autant faire un cercle, enfin optimiser les distances et les trajets. Pourquoi ils font une ligne ? J'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi ils font une ligne ? Pourquoi ils font pas un cercle ? Oui, t'as raison. Ouais. Quel intérêt de cette chose ? Demande Asti. Ben, on essaiera de le comprendre. Moi, je ne le comprends pas. En fait, on va essayer de prêcher le. On va essayer de se faire l'avocat du diable. Parce qu'à un moment, je veux essayer de comprendre l'intention. Je ne la comprends pas pour l'instant. Voilà. Est-ce que c'est juste l'aberration d'un mégalomane, comme dit Aaron Deal ? Tu vois ? Il voulait juste faire un truc qui avait le moins de sens possible sur tous les plans, dit Wedorge. Le nouveau Corbusier. C'est plus simple pour avoir des structures rectilignes. Ah. La ligne pour le transport en train en ligne droite approchant 1000 km/h. Bon, t'as pas besoin d'aller 1000 km/h, 150 km. Tegolek estime que c'est une affiche internationale de promotion de soi, rien d'autre, pas besoin de se couper les cheveux en quatre. Bon, je me coupe de moins en moins les cheveux en quatre, moi, de toute façon. Je me coupe de moins en moins les cheveux, pour des raisons assez évidentes. Et on finira avec... qu'est-ce que c'est ça ? Oh, on parlera d'amour. On parlera d'amour. Dans le monde a 100 000 boules la page là, de publicité. Page 28. Voilà, on parlera d'amour. D'amour, oui. D'amour, il faut que je fasse une petite capture d'écran. Hop. Parce que le monde ne se laisse pas capturer comme ça. Et non, pour attraper le monde, il faut ruser, il faut être subtil. Hein. Il y a le chasseur. Le bon chasseur et le mauvais chasseur. Voilà. Donc, hop, je vais vous mettre ça. Hop, et c'est ici. Amour. C'est une chercheuse ? Est-ce que c'est une chercheuse ? Qui est Marie Bergström ? C'est une sociologue de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Elle vient de diriger un ouvrage collectif qui s'appelle « La sexualité qui vient ». Jeunesse et relations intimes après MeToo. Voilà. 10 000 jeunes interrogés de 18 à 29 ans. C'est vous, ça ? Vous êtes un peu la jeunesse. Hein ? Le livre ausculte les nouvelles pratiques de la jeunesse, donnant à voir les mutations de leur répertoire amoureux et sexuel. C'est intéressant. C'est pour voir si la jeune génération envisage l'amour slash et le sexe différemment des aînés ou pas. Voilà. Me too, tout ça. Ouais. C'est pas intéressant en vrai. Vous en pensez quoi ?
Donc on finira avec ça, on parlera de love, on parlera d'amour. Voilà. Voilà. Ça nous changera un petit peu du Proche-Orient, sur lequel on va débuter dans un instant, je vous cale l'IB. Ouais. Comment tu écris toi le Zex? Clément, tu dis le Zex, le Zex, hein? C'est intéressant. Truc de jeune ça. De bons sujets. Ouais, je trouve qu'il y a une actu intéressante ce matin. Et je remets ça demain matin, hein. C'est triple en vue. C'est un 3 à la suite. Pourquoi ce serait pas un 4 à la suite d'ailleurs? Pourquoi pas jeudi aussi? Et pourquoi je vous ferais pas un 4 à la suite? T'as froid? Comment ça? Quel rapport? T'es froid, de froid de quoi? Show H1, très bonne idée. Pourquoi tu bois du coca, tu t'abîmes la santé? Parce que je suis un punk. Je suis un punk. Je suis même un punk à chien, moi. Oh Samuel, je t'ai vu au Jamel Comedy Club. T'es devenu une légende pour moi. Nel Signo, tu fais plaisir. J'ai raconté ici même, le lendemain, mon passage au Jamel Comedy Club. J'étais invité avec d'autres invités pour assister à un des tournages... Qui va diffuser sur Canal, je pense. J'étais très fier parce que j'ai toujours été très admiratif du parcours de Jamel Debbouze. Et est-ce que tu peux confirmer, mon ami qui était là donc sur place, est-ce que tu peux confirmer que je suis le seul invité à être monté sur scène? Hein? Comment ça, le Jamel Comedy Club, c'est pas fait pour les jeunes humoristes?
Si, alors.
Non. Est-ce que tu peux dire à la communauté, mon ami, que je suis monté sur scène et que j'étais le seul invité sur scène, Nel Signo, est-ce que tu peux confirmer? Hein? Je confirme avec une idée de génie pour un futur spectacle. Exactement. Voilà. Et j'ai même fait une blague sans faire exprès. Voilà. Et les gens ont ri. Voilà. Attends, j'ai pris Nel Signo en otage. Nel Signo, est-ce que tu peux confirmer que j'ai fait une blague et que les gens ont ri? Oui, j'ai fait rire le public du Jamel Comedy Club. Oui, mesdames et messieurs. Oui, mesdames et messieurs. Attends, le pauvre Nel Signo qui n'avait rien demandé. Et là que j'ai pris en otage, là. Pauvre. Je confirme tout, je suis témoin. Pop, 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 pop. Je vous l'épingle. Voilà. C'est écrit. Voilà. En vrai, c'était super. Et le public était trop sympa. Ouais. Le melon de Sam, pas du tout. Pas du tout. Alors là, pas pourquoi tu dis ça. Alors là, de quel melon tu parles? Hein? Non, c'était pas un public d'EHPAD, non. Le public de Question pour un champion est sympa aussi. Bonne blague, AMG. Tu peux nous refaire la blague? Non, c'était une blague de l'instant, une blague d'humeur. On pourra voir ça, oui, ça va passer sur Canal, je crois. Ouais. Nel Signo, fais un signe si tu es menacé. N'embêtez pas, mon ami. Comment ça, un public de sourds, aveugles et muets? Ça va pas, non? Mais Locking, Locke IMG, t'étais dans le public ou pas? J'ai l'impression que t'as entendu la blague, parce que je vois que tu t'écris « tire mon doigt ». C'était le début de ma blague. T'étais là ou pas? Ça a bien marché en vrai. Les gens rient, hein. Fou ça. Bah quoi, elle était bonne, hein. Demandez à notre ami qui est épinglé là. C'était très très drôle. Merci Suzuka pour le 7e mois d'abonnement. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Attends. Attends. Hein? Attends.
Ah, voilà. C'est ça que je cherchais.
Attends. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la route presse? Porte de beau gosse. Est-ce que j'ai votre go? J'attends.
Eh oui, des bouches d'effets spéciaux sur cette chaîne. On est go. Pourquoi je fais ce refus d'obstacle là? C'est parce qu'on part sur l'actu là. Ça va encore nous déprimer, mais c'est pas grave, il faut en parler parce que c'est important. Ok, on y va. Proche-Orient, baby. Voilà, on en a parlé hier, on en reparle aujourd'hui parce que c'est juste essentiel. Cette une de Libération, elle est très forte. Gaza, injustifiable, des vues de la vue de presse. Refusant toujours de laisser entrer l'aide humanitaire, l'armée israélienne poursuit ses bombardements aveugles. La plupart de ses alliés ne l'acceptent plus. On lira aussi l'appel de 300 écrivains qui disent dans Libé aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous contenter du mot horreur, il faut nommer le génocide. Édito d'Alexandra Schwarzbrod qui signe d'excellents éditos régulièrement dans Libération, bain de sang. Il n'est plus possible pour un leader occidental ou arabe de soutenir d'une quelconque façon le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Les tueries quotidiennes dans la bande de Gaza, des familles entières décimées. Des écoles sciemment bombardées par l'armée israélienne sous le prétexte qu'elles abritaient les terroristes ne peuvent plus être considérées comme des représailles à l'attaque terroriste du 7 octobre. Elles ciblent les populations civiles et participent d'une volonté délibérée d'empêcher toute vie possible des Palestiniens à Gaza, ce que l'on peut qualifier de futuricide. On en a parlé hier soir avec une chercheuse qui expliquait ce concept. C'est au-delà du génocide même. C'est quand, au-delà même de la répression d'un instant, on veut empêcher, interdire tout futur à une population. Dans une tribune publiée dans Libération, 300 écrivains, parmi lesquels plusieurs prix Goncourt et un prix Nobel, vont plus loin. Pour eux, c'est bien un génocide qui est perpétré dans l'enclave. Même la maigre, quelle différence avec génocide? Ça n'est pas une différence. Ça ne s'oppose pas à génocide. Dans le futuricide, il y a le génocide et il y a d'autres choses. Il y a l'écocide, il y a tout. Il y a plein de choses. C'est au-delà. Ripple à dire. Même la maigre, très maigre distribution de denrées alimentaires dans un lieu qui manque de tout depuis 2 ans, depuis 2 mois, est entravée, voire sciemment désorganisée par les autorités israéliennes. Le responsable qu'américain et israélien avaient désigné pour gérer ce volet a démissionné en expliquant ne pas pouvoir organiser cette aide en respectant les principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance, c'est dire. Seul éclair d'espoir dans cette noirceur, l'indignation, chaque jour plus forte de la communauté internationale qui accentue ses pressions sur Israël. Porter atteinte à la population civile à un tel degré ne peut plus être justifié comme une lutte contre le terrorisme du Hamas, a notamment déclaré le chancelier allemand lundi, alors que Berlin, jusqu'alors, était l'un des plus forts soutiens d'Israël. La proposition de trêve qu'aurait accepté le Hamas lundi en échange de la libération d'une liste d'otages israéliens a-t-elle la moindre chance d'être mise en œuvre? Attends. Ouais. Ah oui, le micro est très faible. Oh, excusez-moi, les amis. J'avais vachement baissé mon micro. Je le remonte. Merci, Furavener. Il faut l'espérer. Les négociations entre l'Europe et les pays arabes pour tenter de stopper le bain de sang doivent être soutenues et accélérées. Tout en étant conscient que plus Netanyahou se sentira acculé, plus il risque d'accroître la pression guerrière sur Gaza et sur la Cisjordanie, afin de s'assurer du soutien vital pour lui des extrémistes israéliens. Merci Mébrésien, merci Tipsti, merci Laricola. Voilà pour l'édito, les infos, les dernières, notamment je pense que le dossier de Libération va évoquer les dernières frappes israéliennes sur Gaza. La partition du chaos, les bombardements de Tzal, donc Tzal c'est l'armée israélienne, ont fait des dizaines de morts ces derniers jours, dont de nombreux enfants. Les négociations pour un cessez-le-feu restent poussives, alors que les ultranationalistes israéliens, eux, paradent à Jérusalem. Gaza. Il fait encore nuit noire. L'ombre d'une fillette claudiquante se détache des flammes d'une école transformée en refuge, tout juste bombardée par Tzal. Au moins 36 morts, dont 18 enfants, selon la chaîne Al Jazeera. Jérusalem. Le soleil brille déjà sur le dôme du rocher. Des ados gonflés par l'orgueil de l'extrême droite israélienne paradent en hurlant « Mort aux Arabes ». Et que vos villages brûlent dans les rues de la vieille ville. Parler d'un lundi de contraste sonne comme un euphémisme. Malgré les appels grandissants à l'international pour faire taire les armes à Gaza, les bombardements se multiplient toujours plus meurtriers, et les nationalistes israéliens le célèbrent sans honte à l'occasion de leur journée de Jérusalem. Soit la réunification de la ville depuis l'occupation de sa partie orientale en 67. Plus de 3700 Gazaouis ont été tués depuis le 18 mars et la fin de la trêve, avec toujours une proportion honteusement haute de civils et surtout de mineurs. Le week-end a commencé par l'annonce. Ah oui, c'est ça. L'annonce de la mort dans une frappe de 9 des 10 enfants d'une famille de médecins dont les parents étaient de garde. Il s'est terminé à l'aube lundi avec le chaos dans l'école famille Al-Jarjaoui dans la ville de Gaza. Tzahal affirme avoir ciblé des terroristes de premier plan dans un centre de commandement et de contrôle, confirme avoir visé 200 cibles au cours du week-end. Voilà. Mais entre les gamins anonymes tués lors de leurs opérations et les mines grises et amaigries de ceux qui survivent sans nourriture ou presque après 2 mois d'un blocus humanitaire sans précédent, ces justifications sonnent creux. Ce contraste est de moins en moins supportable pour les alliés d'Israël. Je ne comprends franchement pas ce que l'armée israélienne est en train de faire dans la bande de Gaza. Je ne vois pas quel est son objectif en affectant la population civile de la sorte, s'est interrogé de manière inédite. Lundi, le chancelier allemand Friedrich Merz. Son pays était un des rares la semaine dernière à ne pas remettre en cause l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Il faut arrêter cette offensive qui n'a aucun objectif militaire, sauf si l'objectif est de transformer Gaza en un immense cimetière. Cette fois, c'est le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Álvarez, qui parle, alors que Madrid appelle à un embargo sur les ventes d'armes. Friend Stoker, tu l'as copié combien de fois ton truc là? Tu parles des élections en Roumanie sur un. Alors qu'on parle des morts à Gaza? Et tu copie-colles ton message? Bah c'est un spam, bah oui, mais vous me faites un Théo, les gars là. Vous me faites un Théo, vous dites de revenir plus tard, quoi. Hein? Merci. Ça nique le chat, quoi. Merci beaucoup. En plus, c'est un vrai manque de respect pour les victimes palestiniennes, pour le coup, ça. Merci. Voilà. Autre réaction. Nous ne soutenons pas ce que fait actuellement le gouvernement israélien en refusant l'accès à Gaza. Absolument pas. Déclaration du Premier ministre suédois. Israël, alors effectivement, a bien laissé quelques camions d'aide humanitaire pénétrer dans l'enclave la semaine dernière en promettant la mise en place prochaine d'un système de distribution sous son égide, bon, système de distribution dans des conditions surréalistes. Mais la manœuvre semble avant tout servir à justifier sa vaste opération terrestre qui a été entamée le 18 mai, intitulée « Chariot de Gédéon » auprès de ses principaux alliés, États-Unis en tête, qui s'inquiètent du risque de famine. Non seulement la quantité d'aide qui est entrée est ridicule, mais le fameux système à venir, ah oui, ben j'en parlais, censé mobiliser une nébuleuse d'entreprises privées pour contourner les Nations Unies, semble déjà morné. En revanche, les opérations militaires ne cessent de s'intensifier. Au-delà des bombardements, Tzahal a de nouveau lancé un appel d'évacuation de la ville méridionale de Khan Younes, que l'armée rase méticuleusement depuis quelques jours. Selon la chaîne Al Jazeera, les tanks israéliens encerclent aussi depuis ce lundi 2 hôpitaux du nord de Gaza, hein, les rares hôpitaux qui sont encore debout, parce que la plupart ont été détruits. Comme pour les écoles, l'armée israélienne justifie ses assauts contre les structures de santé en affirmant qu'elles servent de refuge et de poste de commandement aux hommes du Hamas. Netanyahou a beau jurer qu'employer toujours plus de force est le seul moyen de ramener les otages encore détenus par le Hamas, les faits donnent plutôt l'impression d'un blanc-seing accordé à l'extrême droite israélienne et ses velléités d'annexion de la bande de Gaza. Pour pousser un peu plus loin le mépris des Palestiniens, le radical ministre de la Sécurité nationale israélien, Itamar Ben-Gvir, est allé célébrer la journée de Jérusalem des mosquées juste avant de voir la vieille ville prise d'assaut par des ados vociférants. Suite page 4. J'ai prié pour la victoire dans la guerre à Gaza et pour le retour des otages, a-t-il écrit sur Telegram. Provocation inacceptable, a estimé le ministère français des Affaires étrangères. Rien ne semble en mesure d'arrêter la machine de guerre israélienne. Ni les protestations internationales, comme celles conjointes de la France du Royaume-Uni, du Canada, la semaine dernière, ni les appels à plus d'humanité relayés sans relâche par des ONG humanitaires dont plusieurs accusent Israël de connaître un génocide à Gaza, alors que l'aide se masse aux frontières de l'enclave sans parvenir à entrer. On a une interview de Rachel Cummings, qui est une directrice humanitaire d'une ONG qui s'appelle Save the Children, dans la bande de Gaza, et qui raconte les conditions de vie des enfants palestiniens. Le titre, c'est « Aujourd'hui, le seul rêve des enfants est de pouvoir manger du pain ». Selon une estimation de l'UNICEF, qui s'appuie sur les chiffres du Hamas, jugés fiables par les organisations internationales, plus de 15 600 enfants ont péri dans les bombardements depuis octobre 2023. Ce lundi, une nouvelle frappe israélienne a tué au moins 36 enfants, je vous le disais, dont 36 personnes, pardon, dont 18 enfants, dans une école de la ville de Gaza. Directrice humanitaire de cette ONG, Rachel Cummings s'inquiète des conditions de vie dramatiques des jeunes Gazaouis confrontés aux bombes, à la malnutrition, aux maladies et à l'absence d'enseignement. Parce qu'il n'y a plus d'école. Encore une fois, dit-elle, comme des centaines de fois depuis le début de la guerre, une école est ciblée directement. Elle servait d'abri, mais c'était une structure éducative à la base. Au moins 80% des écoles de la bande de Gaza ont été détruites depuis le début de la guerre. Quand on parle de futuricide, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'au-delà des morts, au-delà du génocide, ce que fait aujourd'hui l'armée israélienne à Gaza, c'est qu'elle empêche tout futur. Avec notamment des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. C'est un désastre pour l'éducation, bien sûr, c'est aussi une tragédie humaine. Dans quelles conditions vivent les enfants à Gaza, demande Libération ? Dans des conditions absolument désespérées, répond-elle. Chaque jour, il y a des bombardements. Chaque jour, les familles peinent à trouver à boire et à manger pour leurs enfants. Depuis début mars, la situation est encore pire. Les enfants souffrent de malnutrition aiguë. Comme il n'y a pas assez d'eau, beaucoup développent des maladies de la peau, comme la gale. Et comme ils vivent dans des lieux surpeuplés, sans savon, sans eau potable, ils sont aussi victimes de pneumonie et de diarrhée. Hydrochicken, on n'est pas sur Twitter, on n'est pas sur X. Si tu vas chercher des polémiques gratuites, va tweeter. C'est une situation dramatique. Un enfant malnutri qui contacte la diarrhée peut tomber très rapidement malade. Vous savez que les enfants se déshydratent très très vite. Ces derniers jours, lors de nos activités avec les enfants, nous leur avons proposé de faire un exercice qu'on appelle le nuage des souhaits. On leur demande d'écrire un vœu sur un papier. Cette semaine, ils ont seulement écrit « Je souhaite manger du pain ». C'est ça aujourd'hui le seul rêve des enfants de Gaza. Quelles seront les conséquences sur le développement de ces enfants qui grandissent avec la guerre depuis 19 mois ? Et là, on revient à la notion de futuricide. On voit apparaître des troubles psychiques avec une modification profonde de leur comportement. Les enfants ont du mal à interagir. Ils n'arrivent plus à réguler leurs émotions. Leur développement cognitif est altéré. Certains deviennent très agressifs. Tous les aspects de leur vie sont bouleversés. Au-delà des bombes, des évacuations, le tissu social et familial est profondément perturbé. À moyen et à long terme, les conséquences seront énormes. On ne parle pas ici de cas isolés, mais de toute une génération qui sera marquée à jamais par cette guerre. La moitié de la population de Gaza est constituée d'enfants, c'est une population très jeune. Chacun d'entre eux a perdu au moins un proche. Ils ont grandi sans cadre stable, sans interaction sociale normale, sans apprentissage régulier. Cette période si cruciale de leur existence, ce temps où un être humain a besoin de se sentir en sécurité, aimé, entouré, leur aura été volée. Que faut-il faire pour les protéger ? Et cette directrice d'ONG répond : Israël doit arrêter de bombarder les enfants à Gaza, c'est aussi simple que ça. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat et définitif. Nous devons aussi faire entrer de l'aide à Gaza, de la nourriture, de l'eau, des médicaments. Il faut que ces nourritures puissent entrer et que nous puissions avoir accès aux enfants et à leurs familles. Bien sûr, nous sommes contents que de l'aide ait récemment recommencé à passer la frontière, mais le niveau de ce qui entre pour une population de plus de 2 millions de personnes est dérisoire. Voilà. C'est extrêmement clair. Merci au Modo, force au Modo d'être là et d'arbitrer entre ceux qui sont là plus pour essayer de comprendre et pour s'écharper sur des mots. Ben, c'est... Voici donc cette tribune signée par combien ? 300 ? 300 écrivains, écrivaines, francophones, Leïla Slimani, Le Clésio, Despentes, voilà, qui relaient le constat de nombreux juristes et internationaux d'organisations de protection des droits humains qui disent qu'il faut bien parler de génocide. Il y a un an et sept mois, le 20 octobre 2023, la poétesse palestinienne Hiba Abou Nada a été tuée par les bombardements israéliens. Dans son poème, une étoile disait hier, elle avait imaginé pour les habitants de Gaza un abri cosmique à l'abri du danger existentiel auquel ils font face, un abri universel dans lequel ils ne seraient plus, comme depuis des décennies, exclus de l'humanité. Et si un jour, ô lumière, toutes les galaxies de tout l'univers n'avaient plus de place pour nous, tu diras, entrez dans mon cœur, vous y serez enfin à l'abri. Israël tue sans relâche des Palestiniens et des Palestiniennes par dizaines chaque jour. Parmi eux, nos confrères et consœurs, les écrivains et écrivaines de Gaza. Quand Israël ne les tue pas, il les mutile, les déplace, les affame délibérément. Israël a détruit les lieux de l'écriture, de la lecture, bibliothèque, université, foyer, parc. Depuis la rupture par Israël du cessez-le-feu qui devait conduire à la fin de la guerre et à la libération des otages, l'attaque sur Gaza a repris avec une brutalité redoublée. Désormais, les déclarations publiques répétées des figures de premier plan, comme les ministres israéliens Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, expriment ouvertement des intentions génocidaires. La qualification de génocide pour décrire ce qu'il se passe à Gaza ne fait plus débat pour nombre de juristes internationaux et d'organisations de protection des droits humains. La Fédération internationale pour les droits humains, Amnesty International, Médecins sans frontières, Human Rights Watch, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, les rapporteurs des Nations Unies et bien d'autres spécialistes et historiens. Les experts de l'ONU ont ainsi récemment déclaré, alors que les États débattent de la terminologie, s'agit-il ou non d'un génocide, Israël poursuit sa destruction implacable de la vie à Gaza par des attaques terrestres, aériennes, maritimes, déplaçant, massacrant en toute impunité la population restante. Personne n'est épargné, que ce soit les enfants, les personnes handicapées, les mères allaitantes, les journalistes, les professionnels de santé, les travailleurs humanitaires, les otages. Notre responsabilité collective est engagée. Nous, écrivains et écrivaines d'expression française, nous avons trop tardé à parler d'une seule voix. Certains d'entre nous ont déjà signé des tribunes, des pétitions, ont écrit, voté, manifesté. Aujourd'hui, c'est au nom de notre métier que nous prenons la parole. Je ne vous lis pas toute la tribune, vous lisez dans Libération. Face à ce moment historique, nous ne pouvons détourner le regard. Ou bien nous montrer à la hauteur de la tâche qui s'impose à nous. Pardon, c'était un basculement. Face à ce moment historique, deux choix. Donc, nous pouvons détourner le regard, ou bien nous montrer à la hauteur de la tâche qui s'impose à nous. L'histoire parfois nous oblige. La qualification de génocide n'est pas un slogan. Elle implique des responsabilités juridiques, politiques, morales. Nous ne pouvons plus nous contenter d'appeler ça une horreur, de faire montre d'une empathie générale et sans objet, sans qualifier cette horreur, ni préciser de quoi il s'agit. Tout comme il était urgent de qualifier les crimes commis contre des civils le 7 octobre 2023 par le Hamas de crimes de guerre et contre l'humanité, il faut nommer aujourd'hui le génocide. Plus que jamais, je vais à la fin du texte, exigeons que soient imposées des sanctions à l'État hébreu. Demandons un cessez-le-feu immédiat qui garantissent la sécurité et la justice pour les Palestiniens, la libération des otages israéliens, celle des milliers de prisonniers palestiniens détenus arbitrairement dans les prisons israéliennes et qui mettent un délai, sans un terme, sans délai à ce génocide qui nous engage, chacun et chacune. Voilà pour cette tribune des écrivains, des écrivaines dans Libé. Je vous lis maintenant, et après on ira lire un article dans le Figaro qui prend un tout petit peu de recul historique sur le sujet. Alors, je n'ai pas réponse à toutes vos questions, même les plus pertinentes, sont ceux confus. Je vous lis. Alors je réponds à Soli Prophète pour qu'il n'ait pas l'impression qu'on n'est pas, qu'on ne veuille pas répondre à son message. Pourquoi on parle des victimes de Gaza et pas des victimes du trafic de drogue qui font plus de victimes chaque année avec plus de violence? Ben parce que sur cette chaîne, on parle des deux. Voilà. Et parler de Gaza n'empêche pas de parler de la hausse du trafic de drogue en France et des victimes, puisque nous le faisons. Voilà. Et inversement... Parler des victimes du trafic du drogue ne n'empêche pas de parler de Gaza. Je vous lis. Je ne peux pas tous vous lire, mais enfin tous vous lire oralement, mais j'ai lu tous vos messages. Ah, cette question, si j'avais la réponse, super belle 5, Samuel, à ton avis, ça va se terminer comment cette histoire Israël-Palestine? Ça fait 30 ans que je me pose la question, moi. Si je savais. Je sais qu'elle est la seule solution possible, mais je sais aussi qu'elle est très difficile à mettre en œuvre, qu'est la reconnaissance d'un État palestinien. Condition sine qua non. Merci Superbelle pour ton soutien. Merci. Pourquoi c'est difficile à mettre en œuvre? Alors je ne peux pas répéter ce que j'explique sur ce sujet depuis 5 ans de stream ici, parce que ça va être sinon, en fait, pour les habitués, ce serait affreux de m'entendre répondre sans arrêt les mêmes choses en boucle, ce serait épuisant. Mais on va avoir l'occasion de le faire dans cet article du Figaro que je vous propose maintenant, avec un édito de Renaud Girard qui prend un peu de recul justement sur les raisons historiques de ce conflit. Voilà. Tu auras l'occasion d'y répondre un petit peu. Figaro, page 17. Alors c'est un peu étonnant d'ailleurs, cette double tragédie qui se joue en Palestine. Vous allez voir pourquoi Renaud Girard parle de double tragédie. Parce qu'il trouve que c'est aussi une tragédie pour Israël. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, Defecator officiel résume. C'est très difficile de résumer une actualité aussi difficile, mais tu le fais très bien. On avait même cru au milieu des années 90 que la solution, que la paix allait arriver. Puis il y a eu l'assassinat d'Itsak Rabin et c'est reparti. Et justement, Renaud Girard va remonter dans le temps, dans cet article, et revenir sur les raisons pour lesquelles, jusqu'ici, on n'a pas réussi à instaurer la paix dans cette région. Commencé par le pogrom du Hamas le 7 octobre 2023 sur le territoire israélien, la nouvelle guerre israélo-palestinienne a pris des proportions quasi apocalyptiques pour la population enfermée de la bande de Gaza. Le 23 mai 2025, Une frappe israélienne a donc tué dans la région de Khan Younes 9 des 10 enfants d'un couple de médecins. Je vous en parlais, les enfants étaient âgés de quelques mois à 12 ans. Je crois qu'il y a un enfant qui n'est pas mort et qui est blessé. Les deux parents, ils étaient au travail, donc ils étaient... Comment Hamdi et Alaa, les parents, vont pouvoir se remettre de la mort de Aya, Rakan, Raslan, Gebran, Ev, Rival, Seiden, Lukman et Sidra, ces 9 petits êtres totalement innocents de la folie guerrière des leaders politiques maximalistes israéliens comme palestiniens. Ces morts s'ajoutent à une liste de 55 000 tués palestiniens par les bombardements vengeurs de Tsahal depuis le 8 octobre 2023, dont les 2/3 seraient des civils. Les 2 millions d'habitants de Gaza vivent actuellement la pire tragédie que les Palestiniens aient connue depuis 1948. Ils sont pris en étau entre la dictature islamiste belliciste d'une branche des frères musulmans, vous l'avez compris, c'est le Hamas, et les bombardements incessants d'un gouvernement israélien qui, faute d'avoir réussi à éradiquer militairement le Hamas et à libérer ses derniers otages, se laisse aller à ce qui ressemble de plus en plus à la punition collective de tout un peuple. La famille martyr al-Najjar n'avait pas quitté son domicile de Khan Younes car elle n'avait aucun endroit où aller. À Gaza, les 2/3 des infrastructures et des logements ont été détruits. Les familles ont été déplacées plusieurs fois d'une extrémité à l'autre du territoire enclavé. C'est complètement fou. L'hygiène n'existe plus. La sécurité est aléatoire. La famine rôde. Quelle génération de Palestiniens va donc grandir dans de telles conditions? Il est évident qu'Israël est un État démocratique qui a le droit de se défendre. Il est évident aussi que le Hamas a fait le malheur des Palestiniens. C'est le Hamas qui, par ses attentats, a sciemment saboté les accords de paix d'Oslo, qui avaient été signés en septembre 1993 par le gouvernement israélien d'Itzhak Rabin et l'OLP d'Yasser Arafat. Ces accords prévoyaient l'établissement progressif d'un État palestinien sur les territoires de Gaza et Cisjordanie, mais poussé par son fanatisme islamique, le Hamas a rejeté ces accords raisonnables, continuant à réclamer toute la Palestine de la mer jusqu'au fleuve. Ces accords ont également été rejetés par la droite israélienne, aujourd'hui au pouvoir, laquelle a pactisé avec les partis extrémistes religieux qui n'imaginaient pas qu'un seul mètre carré de la terre donnée par Dieu aux Juifs puisse être cédé à des Arabes, même ces derniers y vivaient depuis des siècles avant le début du sionisme. L'extrême droite israélienne a complètement oublié ce que disait l'intellectuel juif Arthur Koestler, lui-même sioniste, disait à propos de la déclaration d'Alfour de 1917, une nation, donc les Anglais, a solennellement promis à une seconde, donc les Palestiniens, le territoire, les Israéliens, le territoire d'une troisième, les Palestiniens. Voilà. Bon, l'origine du problème, il est là. Vous le savez. On en est là aujourd'hui, deux idéologies fanatiques. C'est marrant parce que certains ne veulent pas entendre que le Hamas fait partie du problème. Ah ouais, c'est pas surprenant, c'est le Figaro. Les gens qui, en fait, ne veulent voir que la faute d'Israël dans ce que les Palestiniens vivent aujourd'hui. Ils ne veulent absolument pas voir la responsabilité également du Hamas dans cette situation. Voilà. Et le fait que, en fait, dans les deux camps, vous avez des extrémistes. D'un côté, la droite, l'extrême droite israélienne, de l'autre côté, le Hamas. En fait, ces deux camps-là, ces deux camps extrémistes, ce sont les responsables de la guerre et ce sont les responsables ces dernières décennies du fait que les partisans de la paix des deux côtés, israéliens et palestiniens, parce qu'il y a eu des gens qui des deux côtés ont voulu la paix, ce sont à cause de ces extrémistes des deux côtés que la paix n'a jamais pu être faite. Et les gens qui ne veulent pas voir cette responsabilité aussi du Hamas, vous ne pouvez pas comprendre ce conflit. Voilà. Et donc vous ne pouvez pas à un moment... participer de la solution. Voilà, je le répète. Voilà. Et il faut l'entendre, ça. Il faut l'entendre. Je ne dis pas que... on ne va pas faire des signes égales. Hein. On va dire... À aucun moment, évidemment, on ne dit ici que la réponse militaire israélienne elle est proportionnée à ce qu'a fait le Hamas. Évidemment. Évidemment. À aucun moment. Mais ils font comprendre que le Hamas, que les extrémistes de côté sont responsables du fait que les forces de paix, parce qu'il y en a eu des deux côtés, n'ont pas réussi à faire aboutir la solution des deux États. Quoi. Pour faire simple. On en est là aujourd'hui, deux idéologies fanatiques s'affrontent pour éliminer l'autre. Et c'est la population. Alors, c'est là où Renaud Girard est assez étonnant dans sa réflexion, parce que il s'intéresse aussi à la population israélienne. Bon. Et il dit la population des deux côtés qui en paie le prix. Il faut comprendre que la tragédie ne se joue pas que chez les Palestiniens, dit Renaud Girard, elle se joue aussi chez les Juifs. Le gouvernement Netanyahou ne semble pas comprendre qu'en déshumanisant les autres, on finit toujours par se déshumaniser soi-même. Le désastre humanitaire prévalant actuellement à Gaza n'est pas digne de l'histoire d'Israël. Dans ma jeunesse, dit-il, ma mère nous parlait d'Israël, à mon frère et à moi, comme d'un État modèle, supérieur aux autres par ses vertus. Je pense qu'il veut parler du fait que c'était un État démocratique. Aujourd'hui, ne viendrait pas l'idée d'une mère de famille catholique française de faire l'apologie de l'État hébreu. Voilà. Depuis qu'il a repris ses bombardements sur Gaza le 18 mars 2025, qu'a donc gagné l'État juif ? Tactiquement, ses gains sont minimes, sinon nuls. Stratégiquement, il a énormément perdu. Pour un pays moderne ouvert sur le monde comme Israël, sa réputation internationale est un facteur essentiel de son succès. Or, aujourd'hui, elle est entachée. Même les Américains commencent à se détacher de l'État hébreu. L'intérêt à long terme d'Israël est évidemment de garder des relations très étroites avec l'ensemble de l'Occident, dont il partage les valeurs humanistes. Partageait. On ne peut assister sans pleurer au suicide politique d'Israël. Combien de jeunes juifs brillants ont quitté Israël parce que cela est vrai ? Car ils n'acceptent plus cet état de guerre permanent. Vous avez pas que des jeunes, d'ailleurs, vous avez des familles juifs qui quittent Israël aujourd'hui parce qu'elles ne veulent pas valider ce que fait ce gouvernement. L'État hébreu connaît aujourd'hui une alia à l'envers de ses meilleurs éléments. Alia, c'est quand un juif va s'installer en Israël. Alia à l'envers. Israël que j'ai connu avait une âme. J'ai très peur qu'il la perde s'il continue à traiter la population comme il le fait, de Gaza comme il le fait. Voilà. L'intérêt notamment de ce billet de Renaud Girard, c'est pour moi le retour en arrière sur juste le petit rappel évident, mais qu'il faut rappeler de temps en temps, qu'il y a quand même dans les deux camps des gens qui n'ont pas voulu la paix, et c'est à cause d'eux qu'on en est là aujourd'hui. Je vous lis. Après, l'intérêt de Trump est plutôt de chercher le prix Nobel de la paix à n'importe quel prix que sa prétention. Et même j'ai échangé avec quelqu'un à propos de Trump. C'est un grand rêve de Trump, c'est d'avoir le prix Nobel de la paix pour des solutions qu'il aurait apportées à certains conflits internationaux. La guerre en Ukraine, bon, bah, il réussit pas trop en ce moment. Pourquoi pas le Proche-Orient. Vous savez quoi ? Moi, j'ai pas beaucoup de sympathie pour Trump, que je trouve un personnage plutôt inquiétant contre la démocratie moderne. Voilà. Mais franchement, il faut passer par un prix Nobel de la paix donné à Trump pour régler le problème du Proche-Orient, moi je signe tout de suite. Hein. Moi je veux bien lui donner en personne. Hein. Vous voyez ? On s'en fout. Hein. Franchement. Hein. Sauf que Trump sur le Proche-Orient, pour l'instant, la seule chose qu'il a proposé, c'est de transformer Gaza en Riviera avec des immeubles de luxe pour les touristes internationaux. Donc on est assez mal parti. Voilà. Assez mal parti. Mais franchement, s'il faut passer par là, je lui donne. Après, ça va devenir sur Twitter, par les gens bien intentionnés. Samuel Etienne souhaite que Trump reçoive le prix Nobel de la paix. Je vous lis. Lucien Ducasse me dit, il y a quelques mois, un article dans Le Monde expliquait qu'une grande partie de la jeunesse israélienne avait commencé à quitter Israël avant les attentats. Alors, grande partie, je ne suis pas sûr. Il y a des départs. Parler d'une grande partie de la jeunesse israélienne qui aurait commencé à quitter Israël avant les attentats en raison de son opposition à la politique de Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite, grande partie, je ne suis pas sûr de ces chiffres. Pidule, c'est intéressant ce que dit Pidule. Salut Brocoline. Les accords de paix étaient en grande partie basés sur l'idée selon laquelle Israël était légitime à annexer une partie du territoire qui était palestinien avant 48. C'est aussi pour ça qu'il était très complexe à négocier. En fait, si on veut se mettre dans la tête du Hamas, le refus, là encore, je ne suis pas un spécialiste du Proche-Orient, je suis juste un journaliste qui s'intéresse au Proche-Orient depuis 30 ans, parce qu'il y a une grande nuance. Mais si je veux comprendre la logique du Hamas, c'est qu'eux ne veulent pas, n'ont pas voulu dans le passé des accords de paix prévoyant la création progressive d'un État palestinien, qui est la condition sine qua non de la paix, parce qu'ils ne, ils ne veulent pas, le Hamas, d'un État israélien, dont les statuts du Hamas, rappelons que il y a la négation de l'État d'Israël. C'est-à-dire que, et donc, il est compliqué de négocier avec un pays, avec un État, avec une nation que tu nies, à qui tu dis, en t'installant à la table des négociations, je ne veux pas que vous existiez. Voilà. Alors que, qu'effectivement, via la déclaration Balfour, les Anglais, les Européens aient décidé de créer cet État d'Israël sur une zone géographique où habitaient des Palestiniens depuis très longtemps. Qui est la cause initiale du problème. Mais à partir du moment où on estime, je crois que c'est la bonne solution, que la seule piste pour ramener la paix dans la région, c'est celle de deux États qui arrivent à coexister ensemble, voilà, israéliens et palestiniens d'un côté. S'il y a une des deux parties qui nie l'existence de l'autre, c'est compliqué, quoi. AFRC, alors là, il faut juste tout petit peu revenir sur l'histoire récente. Pour quelles raisons créer Israël ? Est-ce que c'est une vraie question ? Quelle légitimité ? Alors, je ne vais pas pouvoir sur un simple stream Twitch de t'expliquer pourquoi on a créé Israël. Il faut que tu ailles voir, que tu revisites l'histoire des pogroms, des répressions diverses et variées dont les Juifs ont été la cible à travers les siècles, persécutés de partout, puisque n'ayant pas de pays et d'État pour les protéger. Un peuple sans terre. Voilà. Donc à un moment, il a été décidé en fait, de donner un pays aux Juifs pour les protéger des pogroms, et notamment après la forme ultime de ces pogroms qui avaient pris évidemment forme sous le régime nazi d'Adolf Hitler, quoi. Et la solution finale est l'Holocauste. À un moment, on s'est dit peut-être protéger un peu ces gens, quoi. Voilà. Ça vient de là. C'est ce qu'on a appelé du côté juif le sionisme. Alors bon, ça, il faut donc je parle pas du message qui a été écrit là, qui est une question. Hein. Mais je crois que de toute façon, avant d'émettre comme on aime aujourd'hui émettre des jugements définitifs sur tout, avant d'émettre un jugement définitif sur le conflit, ce conflit au Proche-Orient, à un moment il faut se faire l'effort de se pencher sur toute cette histoire, hein, l'histoire des Juifs à travers les siècles, l'histoire des Palestiniens. Qui est un peuple qui a vécu dans cette région sans structure étatique de nation en tant que telle, mais vivant là, se pencher sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, se pencher sur le colon britannique qui a proposé via la déclaration de Balfour de créer un État Israël, etc. Enfin, donc tout ça, il faut l'étudier. Et une fois que vous avez étudié ça, vous commencez à avoir des cartes pour pouvoir peut-être avoir le début d'une opinion sur le sujet, quoi. Mais si vous ne faites pas ce travail, les discussions, elles sont stériles, en fait. Il faut partir de ça, et puis après, on peut discuter un petit peu dans le détail de comment on trouve une solution de sortie à tout ça, quoi. C'est ce travail-là qu'il faut faire. C'est ça qui est intéressant dans l'actualité. Il y a un très bon podcast de Radio France sur l'origine du conflit. Oui, je crois même que Hugo Décrypte avait fait un truc, alors forcément résumé, hein. Mais force à lui. Je crois que Hugo Décrypte avait essayé de revenir comme ça dans une vidéo sur les origines du conflit. Alors évidemment, dans une vidéo sur YouTube, tu peux pas, ça peut pas remplacer les heures de lecture, à mon avis, et quand je dis heures, c'est vraiment un minimum, sur, qu'impose le sujet pour commencer à avoir une opinion à peu près éclairée, quoi. Mais c'est un bon début d'aller voir cette vidéo d'Hugo Décrypte, qui fait un excellent travail. Voilà. Bon, voilà pour Gaza ce matin. Je ne sais pas combien de fois on en a parlé depuis 5 ans, mais je suis content que sur cette chaîne, cette actualité, on l'évoque très régulièrement. Je ne me rappelle pas du tout. Désolé, Double J. Merci, Hater for Real. Bonjour Samuel, pensez-vous jouer à Valorant aujourd'hui? peut-être cet après-midi, peut-être ce soir. Mais je sais pas encore. Peut-être le retour de l'arc Call of aussi. Voilà. Moi aussi, j'ai besoin de changer les idées. Ok, donc, Proche-Orient, on en a parlé ce matin. Je propose de parler maintenant de Trump. Trump est qui? Alors, on va pas dire est en train de changer de position sur la guerre en Ukraine, mais dont le regard sur Vladimir Poutine semblerait en train de changer. Alors, beaucoup de conditionnels, beaucoup de prudence. Regardez, c'est Le Parisien et d'autres journaux ce matin qui nous disent que Trump perd patience dans le dossier ukrainien. On en a parlé hier, ML Rapper, tu l'as en replay cette histoire. Le locataire de la Maison Blanche a semblé contrarié par les dernières frappes meurtrières de Moscou en Ukraine, laissant paraître une lassitude qu'il n'avait pas exprimée jusqu'à présent. Félix Dorsto dans Le Parisien nous raconte l'histoire. C'est assez intéressant en vrai. Il y a une semaine à peine, Trump se félicitait donc d'une discussion téléphonique fructueuse avec Vladimir Poutine, annonçant en grande pompe le commencement immédiat de négociations en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine. Optimisme de courte durée, le locataire de la Maison Blanche s'est ému dans la nuit de dimanche à lundi, des derniers bombardements russes en Ukraine, affirmant que Poutine était devenu complètement fou, tuant inutilement beaucoup de personnes. Bon. Alors vous allez me dire, il se rend compte là maintenant. Ah bah oui. Et vous allez me dire, c'est mieux que vieux mot, vaut mieux tard que jamais. Eh bah oui. Ce n'est certes pas la première fois que le milliardaire hausse le ton, mais cette fois c'est plus virulent et traduit une certaine impatience. Il a écrit sur son réseau social, parce qu'il a son réseau social. Quelque chose lui est arrivé à Poutine, avec des pleins de majuscules, point d'exclamation, voilà, sur Truth Social, il est devenu fou. Je pense pas que quelque chose lui soit arrivé, je pense que ça fait un moment déjà que. Je pense pas que Poutine ait beaucoup changé ses idées sur l'Ukraine, mais bon, disons que ce qui a changé, c'est que j'ai l'impression que Trump est en train de comprendre, quoi. Voilà, c'est le. Voilà. Pour Maud Kessar, qui est chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, spécialiste de la politique étrangère américaine, cette nervosité n'est pas feinte. À mes yeux, ce n'est pas de la monstration rhétorique et du théâtre, comme il en fait très souvent, Trump. Je pense que là, il est vraiment agacé. Pour le coup, il est capable de retourner sa veste très rapidement. Alors ça, Per Powell, c'est un truc que je vous dis depuis toujours. Sur l'Ukraine, la position de Trump est plutôt pro-Poutine, voilà. Mais je vous ai aussi dit dès le début, Trump, c'est un opportuniste. Pour le coup, au sens positif du mot. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de changer d'opinion très vite. S'il estime que c'est dans son intérêt, s'il estime, si on est optimiste, que c'est dans l'intérêt des États-Unis, ou s'il estime qu'on se fout de sa gueule. Parce que le mec a quand même un très gros ego. Donc si à un moment, il a l'impression que Poutine se fout de sa gueule, il est capable, moi je vous le dis depuis le début, de lui mettre sur la gueule à Poutine. Vous voyez ? Ça, c'est un truc que je vous dis depuis le début. C'est peut-être en train de se passer. Ou pas. Celui qui promettait à son électorat de résoudre le conflit en 24 heures, puisqu'il l'avait dit, moi je vais vous régler la guerre en Ukraine en 24 heures, vous allez voir ce que vous allez voir, on n'a rien vu. Voit le temps passer, les pourparlers se ressembler, sans aboutir. Les images des derniers bombardements ont été la goutte d'eau. Merci Gros Bob du 31, merci Cassé Hunter, merci Rainbow, merci Ursien, merci Colin. Je n'avais pas vu. Avec Trump, dit la chercheuse, on est toujours dans l'affect. Il n'aime pas voir les enfants souffrir, Cela le touche malgré son tempérament cynique et extrêmement mercantile. Bon, ça, je ne savais pas ça de Trump, mais en vrai, c'est intéressant. Le mec est donc pas totalement, complètement... L'ex-magna de l'immobilier, car on dit magna et pas magna, de l'immobilier, aurait-il compris avec à qui il a affaire? Dans son message, il est plus lucide que jamais sur les intentions de Poutine. Il veut toute l'Ukraine, pas seulement une partie. Alors c'est incroyable. Trump vient de se rendre compte que Poutine ne veut toute l'Ukraine et pas seulement une partie. Mais quelle clairvoyance! C'est fou quand même. Et il vient de se rendre compte là. Et je pense qu'il faut l'en féliciter. Poutine ne veut pas la paix, et ça, il est en train de s'en rendre compte. Mais j'ai envie de dire, quel visionnaire. Quel visionnaire. Trump avait mal jaugé le jusqu'au boutisme du président russe. Oui, on peut dire ça. Il ne voyait pas à quel point son projet militaire expansionniste et civilisationnel risquait de l'embêter sur long terme. Il aurait pu nous demander, on lui aurait dit, nous. Hein. Nous, on aurait pu lui expliquer il y a un moment déjà. Hein. Et maintenant, parce que bon, on rigole, on fait de l'humour. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est comment on termine ça. Et maintenant, Emmanuel Macron a souhaité hier que la colère de son homologue américain se traduise en actes, et notamment en menaces de sanctions massives américano-européennes. Voilà. Sauf que, pardon, mais les sanctions, Poutine s'en contrefout. Nous allons voir ce que nous allons faire, a simplement répondu l'intéressé, donc Trump, à un journaliste dimanche. Mais Poutine craint-il encore le tempétueux milliardaire? Je pense que non. Merci Xiris. À l'image de ce qu'il avait dit à Zelensky dans le bureau ovale, là c'est Trump qui n'a pas les cartes en main, explique Vera Grantseva, politologue spécialiste des relations internationales. Selon cette chercheuse, la menace de sanctions ne produit que peu d'effets sur les rives de la Moskova, bref en Russie, c'est ce que je vous disais à l'instant. La Russie vit déjà sous les sanctions depuis 3 ans, et même si elles nuisent à son peuple, que des problèmes structurels commencent à apparaître, que l'inflation est galopante, que les taux d'intérêt sont proches de 30%, Poutine est persuadé que l'économie russe peut tenir. Je pense que Poutine se contrefout de ces sanctions. Et de ses conséquences sur le peuple russe, d'ailleurs. Poutine est persuadé que l'économie russe peut tenir. Dans son message, Trump semble en effet laisser poindre une légère lassitude, un certain découragement. C'est la guerre de Zelensky, Poutine et Biden, pas celle de Trump, écrit-il. Comme il n'a pas réussi à régler le truc en 24 heures, il est en train de nous dire, c'est pas ma guerre. Hein. C'est pas Rambo qui disait ça aussi. Faut-il craindre donc que le président de la première puissance mondiale ne baisse les bras devant la complexité du dossier ukrainien? Voilà. Il avait fait ça avec la Corée du Nord aussi, vous vous rappelez, il était en Corée du Nord, il avait dit qu'il avait tout arrangé, puis finalement ça s'était pas fait, donc du coup il était passé à autre chose. Voilà. Pour Vera Grantseva, cela fait en tout cas partie du plan imaginé par le Kremlin. C'est intéressant. Soit Trump cède à toutes les exigences russes, parce qu'il est sous le charme de Poutine, qu'ils ont une sympathie un peu mutuelle entre eux, soit il sort des négociations et ça va être encore plus facile pour les Russes, dit-elle. Pour Maud Kessar, la chercheuse française, elle dit qu'elle ne croit pas à un retrait américain. Ce serait un désaveu total, et comme Trump est très orgueilleux, et puis cela enverrait comme message aux Chinois qui ne sait pas résister, qui ne sait pas négocier, sans compter le prix Nobel de la paix, qu'il continue certainement de lorgner du coin de l'œil. Voilà. C'est fou. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle conclusion Trump va en tirer? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Ah, c'est pas ma guerre, c'est Rambo, c'est ça. D'accord. Tu devrais faire le Jamel Comedy Club. De Christa. En somme, ça tient sur l'ego du président. Oui, c'est un petit peu ce qui est inquiétant. Ouais. Nobel de la paix avec un mur anti-mexicain. Je sais. Ah si, c'est bizarre, mais il en rêve. Il en rêve. Et encore une fois, moi, si c'est le prix à payer pour régler des sujets aussi douloureux que la guerre en Ukraine ou ce qui se passe à Gaza, si il suffit de donner un prix Nobel à Trump, moi je lui en donne deux, un des prix Nobel, il n'y a aucun problème. Pas inintéressant le revirement de Trump, je suis assez d'accord, Furet. Exactement. Voilà pour la petite page ukrainienne de ce matin. On continue, je vous abandonne à midi, on a encore un petit peu de temps, c'est cool. Mais pour travailler, hein. C'est du coca zéro, Roy Campbell. T'inquiète pas, je vais arrêter le sucre. Le sucre. Salut gros loulou. Salut mon gros loulou. Trop joli comme solo. Et si je vous parlais de un petit peu de la poétique en France. Bon allez, comme je vous le disais, c'est aujourd'hui c'est pas trop ce qui me fascine moi. J'entends la politique poéticienne quoi, les trucs d'appareil, les ambitions des uns des autres, c'est plutôt les réformes tout ça. Mais bon, de temps en temps, allez, un petit coup là, vite fait. Non, c'est pas dans Libé, c'est dans La Croix. Je m'ai trompé. La gauche cherche son souffle. Le PS qui s'apprête à désigner son premier secrétaire, donc ça c'est l'actu, espère se relancer avant la présidentielle de 2027. Ça va être compliqué quand même, hein. Ça va être compliqué. En France, comme en Europe, d'ailleurs, la gauche se cherche, nous explique La Croix. La désignation, donc c'est l'actu du premier secrétaire du PS démarre ce mardi avec trois candidats. Je crois qu'il y a Olivier Faure, le candidat sortant qui veut être réélu, mais il y a la concurrence. Affaibli depuis 2017, le parti à la rose, donc le PS, espère se relancer avant la présidentielle de 2027. Des difficultés ressenties dans toute l'Europe. Au Danemark, les sociaux-démocrates se sont droitisés. C'est vrai. Merci, Hazardval, tu as raison. On explique comment cette disparition généralisée de la gauche. Eh ben, on va lire tout ça. On va lire tout ça. Donc, l'actu, c'est aujourd'hui, les adhérents du PS vont voter pour départager les trois textes d'orientation des candidats au poste de premier secrétaire. Jamais cette partie de la gauche n'a semblé aussi peu audible avec le paysage politique. Dans le paysage politique. C'est pas faux. C'est pas faux. Les fleurs du parti à la rose sont-elles toutes fanées ? Image. Mardi, les adhérents du PS ont invité, blablabla, bon, départagé, donc les trois candidats, Olivier Faure, le sortant, Nicolas Mayer-Rossignol et Boris Vallaud. C'est Nicolas Mayer-Rossignol qui est le plus dangereux pour Olivier Faure, en termes d'intention de vote, d'après ce que j'ai lu. Puis le 5 juin, ils voteront pour élire le prochain dirigeant du parti, investi une semaine plus tard lors du congrès du PS à Nancy. Merci Xiris encore pour ton message que j'avais pas fait. À en croire les observateurs politiques, c'est trois textes d'orientation. Boris Vallaud, je viens de le dire, Poupouton, je viens de le dire. Mais je ne l'ai peut-être pas dit assez fort. Boris Vallaud ! Excusez-moi. À en croire les observateurs, ces textes d'orientation, sorte de feuillet programmatique des candidats qui fixent une ligne directrice au parti pour les années à venir, sont semblables. Surtout, ils ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, estime Rémi Lefebvre, qui est un spécialiste des gauches, qui est un politologue. Désolé pour Boris Vallaud, mais je venais de le dire, la personne n'a pas entendu, j'ai répété. C'était trop fort ? C'était trop fort ? Aïe. Désolé. Ah, je suis confus. C'était fort ? Ah, je suis désolé. C'est pas fait exprès. Ah, je suis confus. On n'a pas l'impression que la refondation idéologique et intellectuelle de la social-démocratie est en route. C'est ça qui m'intéresse, moi. Ils ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Hein, ces feuillets programmatiques, ces textes d'orientation. On n'a pas l'impression que la refondation idéologique et intellectuelle de la social-démocratie soit en route. Idéologie, poids politique, présence médiatique, rarement la gauche socialiste n'a semblé aussi inaudible. Alors certes, le PS est sorti revigoré de la dissolution de l'Assemblée en 2024 avec un joli groupe, hein, 66 députés à l'Assemblée, mais il n'a pas retrouvé son statut de parti de gouvernement. Champichon me dit, tous les gens présents dans mon salon, y compris le chat, ont tourné la tête tellement c'était fort et j'ai un casque. Je suis désolé. J'ai renversé mon café. Oh putain. Chalinka, je suis désolé. Ah, je suis confus. Non, sérieux ? Envoie-moi la note du pressing en vrai. Jet Set Willy. Je vous l'épingle. Mais comment un présentateur pro, c'est en capital, parce que c'est très important, peut faire ça, 3 points d'exclamation. C'est ce que je déteste le plus sur Twitch. Pas de normalisation de son. Et des Twitchers, des quoi ? Des Twitchers ? Qui hurlent dans nos oreilles. je zappe direct en général. En fait, Twitch, c'est comme à la radio, on écoute souvent en bossant, avec un casque ou des enceintes, ce genre de choses est insupportable. Je m'excuse. Je m'excuse vraiment platement. Par contre, faut arrêter de dire Twitcher, par contre. Hein ? Je pense. Mais je m'excuse pour ce que je viens de faire. Désolé. Donc, voilà. Revenons sur le fond. Twitchos, c'est OK ? Twitchos, Nachos. Comment qu'elle est ? Longtemps hégémonique, à gauche de l'échiquier politique, le PS est peu à peu affaibli jusqu'à être menacé de disparition lors de la présidentielle de 2022 où Anne Hidalgo réalise le... Pardon, ce score me fait rire, je suis désolé. Ce faible score de 1,75% au premier tour, un record. J'avais oublié ça. 1,75% Hidalgo, premier tour de la présidentielle. Oh nom de Dieu ! Ah ouais. Waouh. Waouh, j'avais oublié. La fracture s'est opérée en 2017. Nous avons été fortement affaiblis à la fin du quinquennat Hollande. Voilà. Confirme un député du Calvados qui s'appelle Arthur Delaporte. Malgré une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat et des lois sociétales, les socialistes ont adopté sous Hollande une série de mesures libérales sur le plan économique et ont rompu avec la ligne historiquement réformiste. Ouais. Il s'installe alors dans l'opinion l'idée que la gauche de gouvernement ne peut plus rien faire, résume Rémi Lefebvre. Depuis, le PS n'est plus le pôle structurant de la vie politique de gauche. Oui, c'est vrai. C'est ce que dit un historien, Mathieu Fula, spécialiste de la gauche. C'est un partenaire de l'Union des Gauches, comme un autre. Quoi. Le parti de l'ancien socialiste Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, donc LFI, a repris ce rôle de pôle structurant, on peut le dire, de la vie politique à gauche. Le PS, lui, s'est perdu dans son alliance avec les insoumis, considère David Habib, ancien député PS, aujourd'hui Lyot, ayant refusé d'être investi sous la bannière de la nouvelle Union populaire économique et sociale 2022, du PS. Aujourd'hui, la rupture est actée entre les deux forces politiques, PS et LFI. Aucun des trois textes d'orientation ne mentionne l'alliance avec LFI. C'est vrai qu'à gauche, on ne se parle pas beaucoup. Là. Voilà. La bataille pour le leadership à gauche n'est toujours pas réglée. Les socialistes ne se positionnent qu'en fonction des insoumis, regrette. Note plutôt le politologue Rémi Lefebvre. Du coup, on ne sait plus quelles sont les idées portées par le PS. Leurs thématiques de prédilection, comme la lutte contre le chômage, le partage des richesses ou encore la justice sociale, sont mises en sourdine par leur perte de vitesse. Les socialistes subissent l'agenda politique du centre et de la droite, ayant refusé, contrairement à cette dernière, de participer au gouvernement de Bayrou. Ils sont moins à l'aise sur les questions d'immigration ou de sécurité, paraissent dans l'opinion publique moins pertinents que la droite et l'extrême droite sur ces sujets, et dans le même temps ne parlent pas assez de social. Alors question, que reste-t-il de l'identité social-démocrate revendiquée de longue date par le PS ? Aujourd'hui, les marqueurs sont flous, dit encore Rémi Lefebvre, qui s'étonne de l'absence de lecture critique du capitalisme dans les textes d'orientation actuels là, des trois candidats au PS. Une partie du PS a dérivé vers un social-libéralisme, une économie de marché moins régulée, dit Arthur Delaporte. Nous devons renouer avec les syndicats, diminuer les écarts de richesse. Cette absence de repères des socialistes a entraîné la perte de leur électorat historique, les ouvriers, les fonctionnaires. En 2011, un laboratoire d'idées qui s'appelle Terra Nova, qui est proche du PS, publiait une étude dans laquelle il invitait le parti à s'appuyer sur une France de demain, représenté par les diplômés, les jeunes, les minorités, les quartiers populaires, mais sans résultat pour l'instant. Voilà. Et Mathieu Fula, lui, estime que, justement, au contraire, l'enjeu pour la gauche, c'est de retrouver les classes populaires. Le PS pourrait répondre à leur inquiétude sur le pouvoir d'achat, sur la santé, mais il n'arrive plus à parler à la société. Constate Anne-Laure Olivier, qui est une professeure d'histoire. Waouh! Les rangs du PS se sont dépeuplés, passant d'environ 210 000 en 80 à moins de 40 000 en 2025, c'est fou ça. Le journal La Croix estime, note que les difficultés que rencontrent les socialistes en France, on les retrouve dans d'autres pays. Le Portugal également. élection législative du 18 mai dernier, où le PS pourrait être devancé par l'extrême droite à l'issue des résultats des circonscriptions de l'étranger. Et en fait, depuis les années 80, c'est toute la social-démocratie européenne, vous n'avez pas que les socialistes français, qui traverse une crise. En Italie, la gauche a presque disparu du paysage politique. Seule l'Espagne semble un petit peu résister. Voilà. Un espoir subsiste en France. Lors de la présidentielle 2027, une fenêtre de tir va s'ouvrir au centre. Si on est social-démocrate et qu'on cherche à gouverner, on doit viser l'union dans la gauche, projette Arthur Delaporte. Donc, appel à candidature commune qui s'enchaîne ces derniers jours, mais les tensions se cristallisent sur les modes de fonctionnement. Primaire, à gauche ou pas, ouverture aux insoumis ou pas, division de la gauche, comme d'habitude. Donc on devrait savoir normalement demain, enfin fin de journée et demain dans la presse, le résultat des votes des militants sur les trois textes d'orientation qui leur sont proposés. Quoi. Ça c'est intéressant, regardez, on va aller au Danemark, c'est un pays qui a, si je ne dis pas de bêtises, qui a souvent été cité en exemple par les sociodémocrates, par les socialistes. Et la Croix nous rappelle que les sociodémocrates au Danemark en fait ont droitisé leur politique, notamment sur la question de l'immigration. Et que ça a marché électoralement. Ouais. Ouais. Donc là, on a une première ministre social-démocrate qui s'appelle Mette Frederiksen, qui est à la tête du pays depuis 6 ans quand même. Son durcissement en matière de politique migratoire justifié au nom de la préservation du modèle social national s'est avéré payant électoralement. Bon, c'est extrêmement clair. Qu'a-t-elle dit cette dame en février dernier dans une interview au New York Times ? Écoutez, être un penseur social-démocrate traditionnel signifie que l'on ne peut pas autoriser tout le monde à rejoindre notre société, sinon il deviendra impossible de maintenir une société durable social-démocrate. Assumé par la gauche au pouvoir à Copenhague, ce discours anti-immigration, au nom de la préservation de son modèle social, est récent. Dans les années 80, ces sociodémocrates danois défendaient une politique d'accueil libérale. Mais pendant la décennie d'après, ils ont dû faire face à l'émergence de courants anti-immigration. 95, création du parti d'extrême droite, le Parti populaire danois. Les années suivantes voient la montée en puissance de ce parti. Législative, ils obtiennent 21% des voix. Les sociodémocrates sont en tête, mais de peu, et ils prennent conscience du danger. Face à cette montée en puissance de l'extrême droite, une partie des sociodémocrates prépare un virage idéologique. En 2015, Mette Frederiksen prend la tête du parti et commence à redéfinir les termes de la politique migratoire, règles plus strictes à l'entrée sur le territoire, intégration plus rigoureuse des immigrés. Voilà. Repositionnement qui se révèle payant. Lors des élections de 2019, les sociodémocrates redressent la tête. Le Parti populaire danois à l'extrême droite, qui était à 21%, tombe à 8,7%. Et 6 ans plus tard, la politique n'a pas changé, puisque, un exemple, attendez, je retrouve le passage. C'est juste c'est la colonne de droite, ici. En 2020, le gouvernement a instauré une loi interdisant aux propriétaires. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était pas ce passage-là. Où est-ce que c'est ? Ah, mais où est-ce que c'était ? Ah non, j'ai mal lu. Ouais. Non, c'était le fait que la politique, elle, reste de gauche. Quoi. Par exemple, 2020, loi interdisant, sur le plan économique et social, une loi interdisant d'augmenter le loyer pendant les 5 années suivant la chaîne d'un logement pour les propriétaires. Et 2021, une bonification des retraites pour les personnes ayant connu de longues carrières. Mais pour cette première ministre danoise, le modèle social qui n'est pas extensible à l'infini doit être protégé, notamment par le maintien d'une politique stricte en matière migratoire. Voilà. Je vous lis là-dessus, c'est intéressant. L'Esteban estime que c'est une bonne chose qu'une partie de la gauche prenne la question de l'immigration en compte. Ça permet d'éviter les politiques délirantes tout en traitant la problématique. Alors, bière pour Dieu, je valide le pseudo, nous dit la gauche fait pareil chez nous et elle se bide électoralement. Attends, la, tu veux dire la gauche, aujourd'hui, elle ne fait pas ça, la gauche. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est si elle faisait ça chez nous, est-ce qu'elle ne se prendrait pas un bide électoralement ? Est-ce que la solution qui a marché pour les sociodémocrates danois peut-elle marcher pour les sociodémocrates français ? J'en suis pas sûr. On ne peut pas dire que LFI, les socialistes et écologistes, tiennent le discours sur l'immigration qu'on vient d'entendre à propos du Danemark, là. Hein ? Je pense pas. Furevenin nous dit la droite a vraiment matrixé le débat, on ne parle que de ça. Ça n'est pas faux. Nimixa, moi je ne comprends pas comment l'immigration est la source de tous nos maux. Bah, tu as raison de ne pas le comprendre parce que ça n'est pas le cas. Évidemment que l'immigration n'est pas la source de tous nos maux. C'est pour ça que tu ne le comprends pas, c'est parce que ça ne l'est pas. Une fois qu'on a dit ça, peut-être que la gauche française devrait se pencher sur le sujet. Pas en faire une priorité comme certains partis, mais le traiter, peut-être avec plus de rigueur. Oui, mais pourquoi c'est omniprésent dans le débat ? Parce que certains partis en font leur beurre. Voilà. Et avec succès. Voilà pourquoi. C'est pas les médias qui l'ont inventé, c'est une espèce de... C'est le fait que certains partis politiques ont fait leur fonds de commerce. Ok. Bon, ça, on en a parlé hier, on en a reparlé. Hein, c'est le début du vote aujourd'hui à l'Assemblée sur le projet... de loi sur l'aide à mourir. On en reparlera, on a le temps, hein, puisque le texte doit arriver au Sénat après, à l'automne prochain. Donc, hier, on a pris le temps de dire ce qu'il y avait dans ce texte que je trouve relativement équilibré sur l'aide à mourir. Et on en a si ça vous intéresse, on a vraiment pris le temps d'évoquer le contenu de ce texte hier. Vous l'avez en replay. On en reparlera, puisque de toute façon, le texte doit aller au Sénat à l'automne prochain, donc il est pas prêt de s'appliquer, quoi. Mais d'ailleurs, c'est pas plus mal, parce qu'on a quand même un sujet sur lequel il faut pas se presser, à mon avis. Enfin, se presser. C'est quand même extrêmement sensible, on parle de vie, de mort. Et pour le coup, je suis pas choqué que le législateur prenne son temps, même si notre pays a sûrement besoin d'une législation un peu plus moderne et humaine sur le sujet. Voilà. Ils en font leur beurre car la gauche a abandonné cette question. Non, la gauche ne s'est jamais penchée sur ce sujet en fait en France. Est-ce vraiment un sujet sensible ? Oui. Oui, à un moment, dire à une société qu'effectivement on peut provoquer la mort chez certains pour parce qu'en fait, pour les raisons que nous connaissons, maladie incurable, douleur, etc. Oui, bien sûr que c'est un sujet sensible. Évidemment. Notamment quand tu demandes aux professions médicales d'accompagner ça, quoi. Replay hier. Merci, Chocofi. Merci pour ton message. Chocofi, merci de continuer ces matinées. Je sais que c'est un format plus délicat, oui. Je profite du message de Chocofi pour le dire. Merci de continuer les matinées, je sais que c'est un format plus délicat, donc la revue de presse, mais tous les types de streams sont géniaux parce que c'est toi, merci Samuel. Merci pour le... C'est quoi ce raid de fou ? Camille, j'arrive dans un instant. Merci Camille pour ce raid de fou. Incroyable ce raid. Attends, je voulais... Hop. Merci Camille, j'arrive, je voulais te remercier. Vous savez que moi je suis venu sur Twitch pour parler d'actualité au début... ce que je fais depuis 30 ans, enfin je veux dire de parler d'actualité, c'est mon métier, mais via Twitch, j'ai quand même découvert d'autres choses, notamment les streams de jeux vidéo. Et je vous montre... Camille, je te suis désormais parce que je vois que je ne te suivais pas. La très belle chaîne qui vient de nous raid. Waouh. Et en fait, on va regarder cette chaîne dans un instant. Et puis, c'est installé en fait, cette tentation permanente, chaque jour, de me dire en tant que Samuel Etienne, bon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu te penches sur les malheurs du monde? Est-ce que tu listes tout ce qui ne va pas dans notre monde, dans notre pays, dans notre société, toujours avec l'idée d'essayer de réfléchir à des solutions, pas juste la montée, mais avec parfois dans le chat des polémiques, des prises de position, parce qu'on évoque plein de sujets sensibles, et puis de devoir arbitrer entre tout ça, choisir avec beaucoup de soin ses mots pour éviter, vous savez, que des petits morceaux bien coupés précisément en enlevant le avant et le après partout sur internet, vous connaissez ça, donc c'est un exercice qui est compliqué. Et la tentation entre faire ça et puis lancer un petit stream de jeux vidéo où ça va être super chill, où ça va être pas compliqué. Et en fait, c'est compliqué d'opter pour l'option la plus difficile, quoi. Vous voyez ? Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait moins de revues de presse. Aussi parce que je me suis rendu compte que 30 ans de bain quotidien dans les mauvaises nouvelles, en fait, ça m'impactait aussi un petit peu. Et puis autre chose, c'est que comme je me suis mis à faire du jeu vidéo, et notamment le soir, et notamment tard le soir, quand tu te couches à minuit ou 2h ou 3h du matin, du coup, c'est plus compliqué de te réveiller à 5-6h pour lire les journaux. Voilà. Tu as pris des sauts suite à des streams jeux vidéo, si je peux me permettre. Ouais, chien GPT. Mais alors, vraiment des sauts, mais vraiment venant des plus débilos que cette terre puisse abriter. Donc là, il faut vraiment une telle absence de second degré pour ceux qui ont fait naître ce genre de mini-polémique là, que ça n'a pour le coup aucun intérêt. Donc ça, on est vraiment sur la lie de la société là. Hein? Donc ça compte pas. Parce que avec même un éveil d'intelligence type larvaire, je pense que tu sais que c'est du second degré, quoi. Mais en revanche, l'actu, oui, entre le travail que ça demande, la difficulté d'animer un chat sur ces sujets comme celui du Proche-Orient qu'on a évoqué là tout à l'heure, et les tentatives des uns et des autres de m'attraper la veste parfois sur des sujets d'actu, ce qui est assez facile en vrai. Et en fait, voilà, donc j'ai fait un peu moins de revues de presse. Mais en même temps, je suis en train de me dire que je ne dois pas arrêter ça. Parce que même si c'est un peu plus compliqué, c'est aussi important, quoi. Merci Camille pour ce raid. Et je vois la bio de Camille ici. C'est incroyable. C'est fou. Vidéaste nature. Animaux sauvages. Tiny house. Mais c'est une dinguerie. Attends. C'était... Voilà. Est-ce qu'on peut épingler cette chaîne? Attendez, je vais le faire. Non, ça c'est le... Attends, je vais mettre la chaîne. C'est moi qui... Hop, choc. Est-ce que vous pouvez aller voir cette chaîne, les amis? Me péter des petits follow, là. Voilà, c'est fait. Voilà. Attendez, je me permets, hein. Je me permets de... Hop, d'aller voir. Donc ça, c'est Chevrette du matin. J'adore. 104 tatouages de blaireau. J'adore. Attends. Mais t'es en pleine nature, là? Ah, zut! Faut que je sois abonné. Comment je m'abonne? Attends, je m'abonne. Ok, c'est abonné. Ok. Je crois que c'est... Regarde les clips. Oh, je me suis abonné! Mettre à jour le mode de paiement. Ah, votre carte expire bientôt. Ah, mode de paiement invalide. Bon, faut que je remplisse ma nouvelle carte. Bon, désolé. 9/2024, c'est fini ça? Ah. Bon, mettre à jour le mode de paiement. Bon, je mets à jour mon mode de paiement. On y est. Je vais mettre ma perso, ça va être plus simple. Ah bah attends, je l'ai dans ma poche, je crois. Regardez pas les numéros, hein. Ah non, ça c'est la pro, celle-là. Alors, hop, on va prendre celle-là. Ouais, des cartes, bordel. Alors, cache bien, fais pas une Domingo. Attends, il la leak. Alors, c'est parti. Vous m'excusez, hein? Samuel, Étienne, pays, France. Information de la carte. Numéro, c'est parti. Il paraît que certains peuvent reconnaître. Pourquoi ça? Pourquoi je peux pas taper mon numéro de carte dans le truc? Je peux taper mon nom, mais pas le numéro de carte. C'est quoi cette dinguerie? Non, j'ai pas de... Ah, le numlock. Non, j'ai pas de... Ah, si, c'est bon. Si, t'as raison, c'est le numlock, t'as raison. Bien vu. 49. Oh merde, putain, je suis en train de... Je suis débile, j'allais lire mon numéro de carte. Oh, le vieux schnock. J'allais lire ma carte. Ok. 49. Ok, moi. Ok. Alors, c'est quoi? C'est marqué quoi, ça? Ok. 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 Le code de sécurité, donc le... Putain, je vois rien. C'est écrit de plus en plus petit, non? Voilà. Vérifier l'achat. Voilà. Ça a marché. Ok, faut voyager au téléphone. Oh là, les gars, attends, c'est compliqué. J'espère qu'on peut me demander un code avec le visage, ça ira bien. Ah, le code, je sais pas le code, moi. Hein? Attends. Bon, je vais pas. Ce qui est bien avec moi, c'est que tout est lent avec moi. Tu es déjà sub? Ah bah c'est pas grave, je continue, je prends le sub quand même. Je suis abonné. C'est pas grave. C'est pas grave. Bah je vais quand même prendre l'abonnement, on est lancé là. Attendez. Alors le code. Je dois avoir ça quelque part. Je sais pas où. Vous regardez pas. Hein. T'as écrit dans le chat? Merde. T'imagines. Oh imagine. Oh, imagine le vieux schnock qui écrit ça dans le chat. Oh la dinguerie. Ah je l'ai. Alors, c'est laquelle? Non, ça doit être ça. Moi, je veux voir les photos de nature, moi. Les images de nature, je veux voir ça, moi. Ça a marché. Ah, ça a marché. Ok, bon. 39, c'est bon. Retour vers le site marchand. Normalement, ça va. Ok. Ok. Ça marche. Incroyable. Regarde les clips. Mais non, mais attends, je suis parti sur l'abonnement. Voilà, je suis abonné. Ok. Incroyable. Voilà. Parce que moi, je veux voir le dernier stream. Moi, je suis un peu têtu. Voilà. Déjà, l'écran d'attente fait plaisir. Oh, mais c'est trop bien. Attends. Merci ce voyageur. Vous avez vu? C'est éminent, ça commence quand? Là, là, là. Là, là, ça commence à... Là. Là, ça commence là. Incroyable. Moi aussi, je veux parler comme ça. Parce que je veux pas faire peur aux animaux. Vous êtes prêts? J'adore.
Bonjour.
Bonjour
Camille.
Bonjour, bonjour. Comment ça va?
Ça va bien, merci beaucoup.
Salut Plume, salut Benoît, salut Roussin, comment vous allez?
Bien, merci. Salut Camille.
Salut Gavin, si tu
ça, c'est sur la chasse.
Mais et où? Dans le sac.
Mais qu'a rien compris.
Cette fois-ci, j'ai sorti la casquette parce que sinon j'ai le soleil en pleine gueule.
Moi aussi j'ai une
casquette. Durac, comment tu vas?
Moi aussi.
D'ailleurs, Durac, t'as cru que je l'avais pas vu.
Mais c'est incroyable, j'adore.
Merci pour ton sub kiff.
Ah, c'est incroyable.
Six mois d'avance pour Kamaï.
Et donc on voit.
C'est rare que je vois un écureuil passer là.
Oh, j'adore. Et donc on voit des animaux comme
c'est
ça.
Ils présentent de nombreux avantages. Dimanche soir.
T'as vu?
Et puis, du coup, moi, c'est dimanche lundi.
T'as vu?
Et puis, hier, petite balade. Petit shopping et tout parce que je devais trouver.
Je veux voir un animal, moi. Vous avez vu une chevrette?
Une robe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais probablement que tu vis du coup dans un endroit comme
j'adore.
Par exemple dans les Abruzzes, par exemple en Italie.
Mais c'est trop relaxant. Mais c'est trop relaxant. On va aller voir la chevrette. Chevrette du matin.
Regardez, regardez. Un joli cadeau.
Oh,
elle est là,
oh.
La chevrette. Les amis, il y a la petite chevrette, regardez. Trop belle.
C'est trop beau.
T'as dans les hautes herbes comme ça, on la voit presque plus.
C'est trop mignon.
On la voit plus du coup. Elle est partie sur le côté. Mais elle va réapparaître. Probablement de l'autre côté. Ah ben elle est là.
Elle est là, je la vois.
Elle est là, les amis, regardez.
J'ai pas de bruit pour qu'elle s'en aille pas.
Arrêtez avec les pans là, je vous vois.
Ah, dis-nous, hein. Je suis à environ 160.
Eh, je vous vois avec les pans là.
Mais les Abruzzes, hein. Tu peux pas.
Je vous vois, hein.
J'adore. Incroyable. Attends, clip.
On me dit qu'il y a un clip. Un renard a essayé de me voler. Attends. Oh! Oh putain!
Les gars.
Hein? Le renard il vient comme ça? À la cool!
C'est la tartine que tu veux.
Comme ça? Au calme?
Non, je vais pas te donner à
manger. Mais c'est insane! Faut pas donner à manger aux animaux sauvages, c'est ça?
Je peux pas. Non.
Oh, elle veut lui piquer son cartable.
Je peux pas. Allez, va-t'en. Allez. Allez.
Incroyable. Eh, c'est ouf, non? Attends, le coup du renard, je m'attendais pas là.
Mais les Abruzzes, tu peux potentiellement voir un cerf. Les voilà.
Attends. Putain, quand je vais dire à mes enfants qu'en fait, mes enfants me posent souvent cette question, notamment le plus petit. Papa, on est d'accord que les dinosaures n'existent plus. Ça les rassure beaucoup. Ça fait flipper ça. Et bon, mes enfants petits me demandaient beaucoup ça. Est-ce que, papa, est-ce que tu peux nous confirmer que les dinosaures n'existent plus? Et là, j'ai toutes mes convictions qui tombent à l'eau, quoi.
Les voilà.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Et voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Il twerk un peu, non? Il dandine pas un peu du cul, T-Rex? Mais c'est qui? Mais qui sont ces gens? Ok. Qui sont ces gens? Quels sont leurs réseaux? D'où viennent-ils? Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? On a envie de savoir. On a envie de savoir qui sont ces gens.
Ah putain.
De Dieu.
Putain. Ils vont où?
Ils font un film. Mais attends, c'est quoi ce
qu'ils font? Ils courent.
Ils vont où là?
Ils courent.
Mais il y a quand même un
homard. Regardez le T-Rex.
Il y a un homard. Oh! Ah, attends, et ce serait pas des gens qui savaient que t'étais en stream et qui sont venus faire une petite blague un peu, un truc comme ça? Bon, et alors ça, c'est la bonne respiration du matin. Merci beaucoup pour ton raid, déjà, et pour la découverte. Ah, c'est du streamhack. C'est ça. J'adore. Et plus sympa le streamhack que sur Valo. Hein. Le streamhack sur Valo, c'est des mecs qui viennent dans ta game pour... Ben, incroyable. Incroyable. Trop bien. Merci Camille pour la découverte. Voilà. On a encore découvert une belle chaîne. Voilà. Voilà. Bon, je peux ramasser ma carte. Ok. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Oh my god, Samuel qui dit qu'il adore le streamhack. Non, j'ai pas dit ça. Accélérons, je dois me libérer à midi pour une petite réunion pour préparer le MVP de demain. Ah oui, le sexe, c'est vrai, on doit parler de sexe ce matin. Ah oui, c'est vrai. Pop, on y est. Ah, zut, attends, il reste combien de temps? 48. Il faut que je me dépêche un petit peu. Bon, il reste The Line aussi, zut. Hein? Je me dépêche. Je me dépêche. J'ai le temps, 12 minutes. Non, on se dépêche. On peut faire notre affaire. Non, mais c'est très rapide. Allez, The Line d'abord. Arabie Saoudite, les échos, let's go. Les échos. Page 10. Voilà. Voilà, je pensais qu'ils avaient abandonné le truc, pas du tout, mais putain, le chantier est parti. Donc, le fameux chantier de fou en Arabie Saoudite, dans le désert saoudien, le plus ambitieux projet urbain jamais imaginé donne vie au pire cliché des romans d'anticipation. Le chantier a démarré, survivra-t-il à sa démesure? L'histoire est complètement folle. C'est bien sûr l'histoire de The Line que vous connaissez. Voilà. Ayman Al-Mudeffer sauvera-t-il The Line, donc l'utopie urbaine du prince héritier saoudien MBS, Mohamed Ben Salman, nommé il y a quelques jours à la présidence de NEOM, ce projet architectural dont vous avez peut-être entendu parler, le plus démentiel imaginé depuis la construction des pyramides, rien que ça. Cet ingénieur déjà à la tête, anticipe une accélération des projets de l'entreprise. Bon, le truc n'est pas du tout abandonné. Voilà. Depuis novembre, il assurait déjà l'intérim de ce chantier titanesque après la démission de Nardi Al-Nassar, censé éteindre plusieurs scandales financiers et humains qui ont entaché sa gestion. Sur le papier, The Line s'apparente à la vision que Louis XIV, en projetant de faire d'un simple relais de chasse perdu dans la forêt versaillaise une vitrine de la toute-puissance royale, donc le château de Versailles, bien sûr. Donc voilà. Alors certains comparent The Line au château de Versailles, dans l'intention. Imaginez comme une révolution civilisationnelle. Let's go! Cette ville linéaire de 170 km de long au nord-ouest de l'Arabie promet à ses 9 millions de résidents, le quart de la population du pays, une existence débarrassée de routes, pas de voiture, entre deux murs d'enceinte de 500 mètres de haut, dans ces ombres rafraîchies par une végétation luxuriante, se dessinera une Silicon Valley du Moyen-Orient, bourré d'IA pour la piloter, d'énergie renouvelable pour l'alimenter, de moyens de transport révolutionnaires pour y circuler. Dans son prolongement seront construits une station de ski, un gratte-ciel de quasiment 2 km de hauteur sur lequel travaille notamment l'architecte britannique qui est très célèbre, Norman Foster, et des hôtels, des complexes touristiques, blablabla. Bref, The Line promet d'être la plus grande, la plus ambitieuse construction jamais édifiée sur notre planète. Depuis les premiers, je partage vos inquiétudes. Hein. Depuis les premiers coups de pioche en 2021, ce fantasme métropolitain s'accompagne autant de promesses que de doutes. D'abord en raison de son coût astronomique. Hein. On est sur du 8 800 milliards de dollars, 25 fois le budget annuel du pays. Voilà, incroyable. Donc le chantier, la personne avait raison tout à l'heure, le chantier il commence pas, il a commencé, quelqu'un me disait que le chantier avait déjà commencé, oui c'est vrai. Prise du ciel, ces images révèlent une tranchée d'ampleur en partiellement bétonnée qui taille le désert d'un trait, se perdant dans les brumes de chaleur, des forêts de grues, d'immenses champs d'éoliennes, plusieurs infrastructures ouvrières, des quais déjà dessinés. Oui, ça a commencé, vous avez raison. Démesurés, comparativement à la construction en 1960 de Brasilia, vous savez, au Brésil, la capitale administrative avait observé 10% des richesses totales du pays. 140 milliards de dollars. À l'époque, le gouvernement avait fait marcher la planche à billets au Brésil, entraînant une inflation au record et une instabilité politique qui avait précédé le coup d'État militaire de 64 et ses deux décennies dictatoriales. Le truc n'avait pas été sans incidence sur le Brésil. Il y a un exemple aussi à Jakarta, aussi, en Indonésie, pardon, de ce niveau-là. The Line, quel est le projet ? Emprunte son concept aux idées futuristes à l'époque. Reviens un petit article. Ah. De la cité radieuse de Corbusier qui concentre à la verticale un village entier, ses logements, ses loisirs, ses services, voire son travail pour certains, dans un bloc de béton segmenté par fonction. T'as tout sur place, quoi. Un métro permettra les déplacements locaux d'un module à l'autre. Des couloirs de transport sur quatre hauteurs différentes sont prévus, peut-être sous forme d'ascenseurs horizontaux. Le principe de cette ville, donc, c'est intéressant, vraiment, la démarche. Essayer de comprendre pourquoi ils veulent ce truc, quoi. Son principe sera celui de la ville du quart d'heure. Son modèle d'organisation urbaine permettra aux résidents d'accéder à leurs besoins essentiels en une fraction de minutes à pied de leur domicile. Voilà. L'utopie est ancienne, elle se fonde tout à la fois sur l'unité de quartier inventée dans les années 90 par le planificateur américain Clarence Perry, la cité linéaire inventée 20 ans plus tôt par l'urbaniste espagnol Arturio Soria, la ville spatiale et modulable de l'architecte français Jonah Friedman pour lutter contre l'étalement urbain, ou encore le monument continu dépeint en 69 par un groupe avant-gardiste italien qui s'appelle Super Studio. Donc en fait, cette démarche, elle s'inscrit dans des utopies architecturales qui ont déjà existé dans le passé, quoi. Alors, comme ce fut le cas pour tous ces projets, la controverse touchant The Line est également d'ordre écologique. Dans une interview, un membre du GIEC et conseiller climatique de NEOM a reconnu que l'ampleur du projet pourrait modifier les conditions météo locales et la trajectoire des tempêtes de sable, par exemple. Les associations environnementales craignent également pour la biodiversité. Cette barrière va diviser les écosystèmes. Est-ce que les titans seront dans les murs ? J'ai la ref, les scorpions, joli. Malgré les critiques, les promoteurs de The Line continuent de qualifier le projet royal d'arcologique en référence au concept de ville nature à la fois écologique et urbaine. Un paradis comme le vantent les folles images de synthèse qui façonnent sa légende, point d'interrogation. C'est sans compter les implications sociales, politiques, économiques, culturelles sous-jacentes. The Line ne va faire qu'élargir la fracture entre les plus aisés qui ont le droit à la lumière des hauteurs et les autres tapis au fond de la faille. Une utopie qui risque bien de tourner à la dystopie. C'est fou, hein. C'est la première fois que je vois un article qui se penche un petit peu sur le pourquoi du truc, en fait. Pour essayer de comprendre. Pour bien comprendre la folie du truc, il faut en comprendre la philosophie, quoi. C'est fou, hein. Incroyable. La faille de l'invocateur, exactement. C'est incroyable. Il nous reste 5 minutes. Bon, on parle de sexe ? Très vite. J'aurais pu reporter à demain, mais c'est assez intéressant. C'est l'amour, la sexualité, chez les 18-30 ans, je crois. C'est une chercheuse qui a bossé là-dessus. C'est dans le Monde ? C'est dans le Monde. Hop. Alors, je vais vous le faire ici. Hop. Ici. Voilà. Ça s'appelle Marie Bergström. Chez les jeunes, le couple n'est pas tout à fait le même que par le passé. Enquête menée en 2023 sur les pratiques sexuelles des adultes âgés de 18 à 29 ans. Comment ça, 5 minutes pour le sexe, c'est parfait ? Oh non, le gars, oh, oh, oh ! Se voit modifié par des partenaires plus nombreux dans la vie de nouvelles formes de relations intimes. Donc c'est une sociologue qui bosse à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Elle a dirigé un ouvrage collectif qui s'appelle « La sexualité qui vient, jeunesse et relations intimes après MeToo ». 392 pages. 10 000 jeunes interrogés. Voilà. Alors, let's go. Génération no sex ou au contraire, génération hypersexualisée. Votre enquête bat en brèche deux représentations répandues de la jeunesse. Vous insistez au contraire sur la diversification du répertoire amoureux. Comment s'exprime-t-elle ? Alors la chercheuse dit, beaucoup de discours contradictoires circulent, s'apparentent à une tentative de lire les pratiques d'aujourd'hui avec les lunettes d'hier, notamment ces discours très opposés qu'on vient d'évoquer, faisant état d'une hyper ou d'une hypo-sexualité, qui sont certainement le signe de cette incompréhension. Le changement très important à bas bruit, c'est cette, dit la chercheuse, diversification relationnelle. J'en comprends qu'il y a des modèles amoureux plus divers qu'avant. Sur le plan quantitatif, elle s'illustre par une augmentation importante du nombre de partenaires sexuels. On est ainsi passé pour les femmes de 18 à 29 ans d'un nombre moyen de 4 partenaires en 2006 à 8 en 2023, c'est x2. Pour les hommes du même âge, on passe de 8 à 12. Tendance qui s'inscrit sur le long terme, mais avec une accélération nette sur le temps récent. Cette augmentation s'accompagne sur le plan qualitatif d'une diversité croissante dans la manière de nouer des liens intimes. Le couple est toujours là, tout comme la sexualité sans lendemain, et de nombreuses relations s'inscrivent désormais dans un continuum entre ces deux pôles, hein, les sex friends, les amitiés avec un plus, les plans cul réguliers. Ces nouveaux termes qui circulent traduisent une volonté de nommer et de faire reconnaître cette nouvelle carte relationnelle. Cyril, les chiffres évoqués, ce n'est pas une moyenne par an, hein, c'est sur le nombre de partenaires de 18 à 29 ans. J'espère que c'était une question premier degré ou deuxième degré, je ne sais pas. Donc, davantage de champs des possibles, quoi. La chercheuse montre aussi que le couple exclusif reste quand même le modèle dominant, notamment à l'approche de la trentaine. Le couple lui-même n'est plus du tout n'est plus tout à fait le même que par le passé. Il s'est transformé par les autres expériences relationnelles. À côté de cette diversification, la norme conjugale reste quand même forte, très manifeste chez les jeunes. 2/3 d'entre eux disent avoir été en couple en 2023. 21% ont connu une histoire d'un soir, 15% d'autres formes de relations. Cela montre une forte complexification des parcours, avec plus d'alternance entre des périodes conjugales et des périodes de célibat. Ces dernières étaient souvent très intenses sur le plan relationnel, en particulier pendant la période post-rupture. La diversification relationnelle change aussi le rapport à l'exclusivité sexuelle. Alors qu'auparavant, la norme de la fidélité était implicite, cela ne va plus de soi et devient un sujet de discussion. Voilà. Notamment parce qu'il existe d'autres relations non exclusives. Quelle place est accordée à l'amour dans ces différentes relations? Il occupe une place très importante et même assez distinctive dans le couple. Attends, je vais dire à Paul que je vais avoir 5 minutes de retard. Arrêtez de parler de mon passé, là, bordel. Coucou Paul, virgule, je vais avoir 5 minutes de retard, je finis ma revue de presse, virgule, à tout à l'heure, point d'exclamation. Ok. On parle d'amour, quand même. Donc l'amour occupe une place très importante et même assez distinctive dans le couple. L'amour est un critère de distinction de la conjugalité par rapport aux autres relations. Au début de la vingtaine, souvent les couples n'habitent pas ensemble, disposent de peu d'assises, d'une faible reconnaissance extérieure. Bon, ça c'est rien de surprenant. Ok. L'âge médian du premier rapport sexuel évolue peu. Hein. Il augmente même un peu, ce qui est une première. Avant, l'âge médian du premier rapport sexuel ne cessait de diminuer. Et en fait, il augmente un peu maintenant. Oui, c'est en France. Là, actuellement, on est à 17,8 ans pour les femmes, 17,6 ans pour les hommes. Âge médian. C'est tard, hein? Bon. Okay. Donc, ça augmente un petit peu. C'est un changement léger mais significatif. Il signe un inversement de tendance, dit la chercheuse. Depuis une génération née dans les années 40, l'âge médian lors du premier rapport sexuel ne cessait de baisser. Et en même temps, s'opère aujourd'hui un rapprochement entre les sexes. Ah oui, c'est vrai. Oui. Le changement est visible à partir de la génération née en 97. On voit, ok. On voit que la petite cohorte de jeunes qui ont eu 18 ans en 2020 est entrée dans la sexualité un peu plus tardivement que les autres. Elle évoque notamment un effet conjoncturel très spécifique lié à la crise du Covid et au confinement. Mais la tendance de fond vers la hausse avait débuté auparavant et on l'observe dans d'autres pays. États-Unis, Pays-Bas. Reste à voir si c'est une inversion de tendance durable. Ah, c'est marrant. Le premier rapport intervient plus tard maintenant. Un petit peu plus tard. Ah, intéressant. Est-ce que le mouvement MeToo a redessiné les relations entre adultes, entre jeunes adultes? Pour le coup, pour l'avoir connu, ouais, le confinement nous a bien niqué, dit Stuff de Max. Bah oui, pour le coup, oui, bien niqué, oui. Bah oui, ça c'est sûr. C'est important de distinguer la mobilisation MeToo, concentrée à l'automne 2017, qui traduit une dénonciation des violences sexuelles sur les réseaux sociaux, et notamment le moment hashtag MeToo, qui est un moment plus général. En effet, l'augmentation des plaintes pour viol et agressions sexuelles a débuté avant 2017. Ce mouvement MeToo se traduit de plusieurs manières, avec une politisation de la sexualité, une réflexivité croissante sur les questions d'intimité et de genre, et un renouveau féministe. Dans l'enquête, une forte proportion de jeunes se disent féministes, 75% des femmes, 56% des hommes. Hein. Donc elle dit, c'est important de le préciser, à un moment on parle beaucoup de l'essor des mouvements virilistes, ils sont très actifs, très bruyants, mais que représentent-ils vraiment démographiquement ? En matière de sexualité, cette chercheuse a dit, on ne voit pas cette polarisation, si on prend un peu de recul, mais plutôt un rapprochement entre les sexes. Comment la notion de consentement est-elle investie par les 18-29 ans ? On l'a abordé notamment à travers la communication au sein des relations. C'est Le Monde. C'est Le Monde. C'est le journal Le Monde. Le fait de parler de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas est une conversation très présente, particulièrement dans les couples, moins dans les autres relations. 3 femmes sur 5 ont déjà dit non à certaines pratiques ou positions avec leur conjoint. Ça se traduit pour les hommes par ne pas forcer et pour les femmes par ne pas se forcer. C'est bien ça. Le consentement dans l'hétérosexualité repose donc sur une division des rôles où les hommes ont plutôt un rôle actif et les femmes sont plutôt dans une position de réponse aux sollicitations masculines. Mais dans le même temps, l'enquête révèle une augmentation très forte des chiffres des violences sexuelles. 2006, 23% des femmes disaient avoir subi des rapports forcés ou des tentatives de rapports forcés au cours de leur vie, 43% en 2023. Deux interprétations possibles. D'une part, l'augmentation des déclarations. Les femmes vont davantage qu'hier qualifier des expériences comme des rapports forcés. MeToo entraîne une relecture des expériences passées et les jeunes femmes reconsidèrent et mettent des mots sur des violences qu'avant elles ne désignaient pas forcément comme des violences. Le seuil de tolérance, et c'est très bien, envers la violence a donc baissé. D'autre part, cette hausse peut refléter une augmentation de l'exposition aux violences qui s'expliquerait par l'augmentation forte du nombre de partenaires sexuels. La diversification relationnelle entraîne aussi une plus grande exposition aux violences des hommes, ce qui est statistique et mathématique. Okay. C'est vachement intéressant, en vrai. Votre ouvrage insiste sur une nouvelle manière chez les jeunes d'aborder les normes de genre. Vous montrez par exemple que 24% des jeunes se sont posés des questions sur leur masculinité ou féminité. Cette enquête est la toute première en France à mesurer la part de personnes non-binaires qui se reconnaissent ni hommes ni femmes. C'est une petite minorité, 1,7% des 18-29 ans, mais le questionnement sur le genre, féminité, masculinité concerne beaucoup plus largement les jeunes. Le moment politique qui est le nôtre est aussi un moment propice pour favoriser la réflexivité avec une invitation faite aux hommes de prendre la distance avec certaines normes virilistes. Faut-il voir dans ces interrogations et dans ces nouvelles formes de sexualité des jeunes l'expression d'une plus grande tolérance ? Avec quel impact pour l'ensemble de la société ? La jeunesse contemporaine remet en cause un certain nombre de binarismes. D'abord, binarité de genre. L'opposition très figée entre les hommes et les femmes est questionnée par ces jeunes générations. Très bien. Les personnes non-binaires en sont la manifestation la plus radicale, mais on observe plus largement une moindre croyance dans la naturalité des différences de sexe. Autre frontière remise en question, celle entre hétérosexualité et homosexualité, avec une augmentation très significative des plurisexualités, des femmes notamment qui se définissent comme bi ou pansexuelles. On constate aussi moins en moins de différences entre les modes de vie gays et lesbiens et hétérosexuels. Enfin, un troisième binarisme est remis en cause avec la diversification relationnelle. L'opposition simple entre le sérieux et le pas sérieux, entre le couple et le sans le lendemain. Les jeunes explorent une troisième forme relationnelle, c'est-à-dire une sexualité avec lendemain, des relations sexuelles suivies, mais qui n'est pas calquée sur le modèle du couple. La génération récente introduit un troisième axe, un élargissement des possibles, ouvrant ainsi de nouveaux horizons. On se régale. Vous avez bien raison, c'est formidable. Bon, ça ne me concerne pas, ni générationnellement, ni pour rien, puisque, vous le savez, je suis rangé des bagnoles. Et c'est très bien. Mais c'est très bien, bravo à vous. C'est bien, hein, c'est intéressant. Voilà. Bon, on n'a pas appris 1000 choses. Je pense qu'on tout ça, on le sait plus ou moins de façon empirique. Mais c'est quand même une enquête d'une chercheuse qui met des chiffres et des mots précis sur un ressenti général. En vrai, c'est pas mal. C'est à lire dans la dernière édition du Monde. Pas celle qui sort cet après-midi, là, celle qui est sortie hier après-midi. Voilà. Je vous lis un petit peu. Je suis un petit peu en retard avec mon rendez-vous avec Paul. Je m'en excuse. Paul, si tu es sur le live. Question difficile, j'imagine, mais si tu es de notre génération, penses-tu que tu envisagerais ton couple différemment ? Alors, j'essaie, grâce à vous, de me. Mon arrivée sur Twitch m'a permis aussi, moi, de réfléchir à. Je le dis très sérieusement. Salut, défécateur. Mon arrivée sur Twitch m'a permis aussi d'être en contact avec des gens plus jeunes que moi. Et donc, de me poser des questions que je ne me posais pas avant, clairement, puisque pour le coup, on a des référentiels intellectuels de valeurs de réflexion qui ne sont pas les mêmes, forcément. Mais du coup, cet échange quotidien m'a permis d'en prendre conscience. Mais du coup, je ne pense pas non plus être un vieux schnock dans le cadre de mon couple, je veux dire. C'est ça que je veux dire, tu vois. Voilà, sans rentrer dans le détail, parce que du coup là on rentre dans le privé et j'expose pas cet aspect de ma vie privée. J'essaye d'intégrer dans mon comportement au quotidien tout ce que je trouve nécessaire et impérieux qui n'était pas forcément la norme des générations précédentes. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Mais du coup, Twitch m'a aussi apporté sur le plan personnel, je dirais. Vraiment. Il y a Furet Vénère qui dit t'es un gros baiser, quoi. J'adore. Donc voilà, donc merci. Bon, les amis, je vous laisse parce que je dis minutes en retard pour ma petite réunion là, qui prépare le MVP de demain. En vrai, on va se régaler. Venez demain soir à 18h. Regardez-moi ça. Allez. Ouais. Repos ou boulot, les petits boulots, voilà, les boulots de l'été notamment, voilà pour les étudiants ou autres. Voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que les pièges à éviter, les jobs les plus sympas, les salaires, voilà, etc. Petit boulot, pas mal ça. Voilà, il y a la Miss Julien Méniel, il y a la Miss Sunday, Ludovic B, il y aura d'autres invités, il y aura d'autres. Voilà, repos ou boulot. C'est pas repos au boulot, hein. C'est l'été, voilà. C'est pas mal, hein. On va bien rigoler. Voilà. Je suis très fier de cette émission. MVP, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. On se retrouve peut-être cet après-midi pour un live de gaming. Et peut-être encore un autre ce soir. On est peut-être sur un triple stream aujourd'hui. Oui, mesdames et messieurs. Peut-être. Ou deux. Deux sûrs. Qui est en live ? Un petit raid. Ok, moi j'ai peut-être une petite idée, ouais. J'ai une petite idée, je vérifie si mon idée est la bonne, je pense que oui. Est-ce que je vais au bout de cette idée ? Ah, quelle heure il est ? Ah, 14h30, il y a notre ami du Japon là qui va mixer là. Mais il n'est pas 14h30. Ok. Vous savez quoi ? On a parlé de nature tout à l'heure. Hein, on a parlé de nature tout à l'heure. Vous vous rappelez avec la belle chaîne qui nous arrête là, hein, que je suis content d'avoir découvert. Bon, on va rester dans l'univers de la nature avec notre ami, vous avez sûrement deviné, Jardistream. Ouais, c'est Mélissa Japon qui sera à partir de 14h30 en mix DJ depuis le Japon. N'hésitez pas. Mélissa Japon collé. Voilà. Et il y a notre ami jardinier, voilà, qui est incroyable et qui stream depuis son jardin. Et le garçon est exceptionnel. Il est vraiment passionné par ce qu'il fait. 163 viewers. Let's go. On me dit qu'il a planté des tomates pour moi. Oui, on en avait parlé. Oh, il est incroyable. Il a tout son setup. Il est en train de planter des trucs là. Le garçon est exceptionnel. Vous allez découvrir sa chaîne, Jardy Stream. Moi, je vous retrouve au plus tard ce soir, peut-être même cet après-midi. Là, je vais aller bosser. Prenez soin de vous. Merci pour la force. Merci d'avoir été aussi chill et cool dans le chat aujourd'hui, ce matin. C'était un plaisir. Vous êtes presque en train de me donner envie de faire de la maîtresse tous les jours. À tout à l'heure. Merci pour tout. C'est parti pour le raid. Ciao, ciao.
Écoute, la barquette de tournesol, elle est pliée. Il m'en reste un mini, là.
C'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi?
Comment ça va, Fanny? N'hésite pas à voter, Fanny. Oh, la vache. Oh, putain, c'est reparti. Oh là 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 là, merci, Samuel.
Grand malade mental.